Radio Courtoisie.
Le froid et la famine, à l'église et par les champs, à la belle des victimes, marchaient les artisans.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bikech, avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 10 mai, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Chaîne musique. C'est joli cette musique.
C'est nouveau.
L'orchestration. Ah non, mais ça fait 15 ans. Je n'arrive pas à m'en lasser. Amis de la Résistance, bonsoir. Alors, je donne le programme des réjouissances parce que, après, les gens me disent, mais c'est pas gentil, vous avez pas dit ce qu'il y avait. J'ai vu le dimanche. Les gens me disaient, mais vous nous dites jamais le programme de l'émission, ce qui fait qu'on attend que ça soit intéressant, puis on perd notre soirée. Donc maintenant, je vais vous dire, alors, le programme. Questions diverses, comme on dit dans les...
Avec ça, vous êtes...
À la fin, voilà. Des conseils d'administration.
Alors, les conseils d'administration. Avec Daniel Amiche, que vous venez d'entendre.
Bonsoir.
Pardon, tu me l'aurais fait ça
Ami du trône de l'hôtel, bonsoir.
Bonsoir. Voilà. Alors, ensuite, on parlera de choses diverses et variées.
Toujours les mêmes, mais diverses, mais excellentes.
Je recevrai... Alors, normalement, c'est un débat qui doit rester courtois, mais je ne sais pas. Alors, on verra. Monsieur l'abbé Cellier, bonsoir, monsieur l'abbé.
Bonsoir.
Qui ne parlera pas, pour une fois, de fidélitaire.
Je dirais juste qu'il vient de sortir, dans deux minutes.
Voilà, c'est ça. Monsieur, il ne perd pas une occasion de faire de la réclame. Et Louis-Hubert Rémy, comment vous vous présenteriez ?
Oh, tout simplement, bonsoir à tout le monde, tout simplement président des Amis du Christ au Roi de France, et passionné de la foi, et suivant de très près tout ce qui se passe actuellement au niveau des pourparlers entre Rome et Cône.
Voilà, alors pour vous présenter d'une façon un peu plus appétissante, je dirais, pour les auditeurs, je me suis laissé dire par des gens probablement mal intentionnés que vous apparteniez plutôt à cette mouvance qu'on appelle la mouvance.
C'est des vacantistes.
C'est des vacantistes.
Oui, c'est un mot que je renie un petit peu, mais enfin, c'est un raccourci qui nous a été imposé par l'adversaire. Je tiens à préciser que je suis catholique et que, étant catholique, donc. Je me permets de porter un jugement sur l'église conciliaire, que j'appelle pas l'église conciliaire, mais la secte conciliaire, et donc que je refuse en gros non seulement le pape, mais toute la secte conciliaire, c'est-à-dire les sacrements, la hiérarchie.
Arrêtez, parce que Amish, voilà, j'arrête. Amish bon, est mort, là, ça y est. Voilà.
Je deviens vert, je vais tourner bleu.
Voilà. Il est déjà évanoui, mais on va essayer de le garder bleu. Je parle pas de l'abbé Cellier, qui en a vu d'autres quand même, et qui porte une armure qui lui permet de résister. Mais Amish, il est quand même là, très atteint. Enfin bon, mais j'ai pas d'opinion. Hein. Je pense rien dans cette
affaire. Il vaut mieux entendre ça que des sourds, comme on
voilà,
dit à la radio.
Oui. Bien, alors, ensuite, ou avant, on donnera la parole à une dame que j'ai invitée. La première raison, c'est parce qu'elle m'a dit qu'elle était légitimiste, parce que j'ai trouvé une bonne. Hein,
c'est déjà une première bonne raison.
Bon. Et en plus, je trouve qu'elle a un nom extraordinaire. Elle s'appelle Albéric, qui pour une femme n'est pas courant, de la forêt d'Yvonne, ce qui est un nom qui est très illustre dans l'histoire de France, et Albéric de la forêt d'Yvonne, qui en plus dirige un cercle légitimiste qui s'appelle Charles de Bonchamp, c'est tout bénef. Voilà, donc on parlera avec madame de ce cercle légitimiste brièvement. Et dans la deuxième partie, je recevrai avec cette excellente Victoria. Je vais vous mettre à la question dans deux minutes.
Oh là là, malheur.
Alexandre Delval, qui est un habitué de cette radio. Pierre Hillard, qui est aussi un habitué de cette radio. Alors, Alexandre Delval, c'est un spécialiste de l'islam. Pierre Hillard vient d'écrire un livre qui, à mon avis, est capital et qui s'appelle... Non, je ne vais pas dire le titre, il le dira lui-même tout à l'heure, parce que je le dirai faussement. C'est un livre qui examine, qui étudie le rôle de l'Allemagne dans le démantèlement des nations, en réalité. Voilà, pour dire les choses clairement, je sais que je vais faire de la peine à Alexandre
Delval. Des nations, sauf de la nation allemande.
Sauf de la nation allemande, qui n'existe pas, comme chacun sait. Et je sais que je vais faire de la peine à Chamalis, mais tant pis, je prends le risque. Et puis Michel Blanza qui viendra pour pas, parce que quand il s'agit de parler de choses sérieuses, il vaut mieux que Blanza soit là. Voilà en gros le programme de la soirée. Il y a quelqu'un? Ils sont tous partis.
Oui, ils sont là.
Alors, j'ai demandé à Daniel de venir ce soir parce qu'il est plus aimable que moi et plus courtois.
Ça se dit, oui, c'est une
chose. Alors, mon cher Daniel, comment avez-vous trouvé cette journée du
Eh bien, merci Serge de me donner la parole, mais enfin, il faudra que vous disiez vous-même comment vous l'avez trouvé.
Oui, par hasard.
Et moi, j'ai trouvé ça excellent. J'ai trouvé ça vraiment... C'est-à-dire, la fête de Radio Courtoisie, pour les animateurs, il faut que les auditeurs le sachent. Je ne parle pas pour ceux qui sont venus et qui voient ce qui se passe, mais pour ceux qui ne sont pas venus et qui sont l'énorme majorité, en espérant qu'ils viendront l'année prochaine. Nous autres animateurs...
C'est l'élite qui est venue.
S'ils viennent tous, c'est pas possible. Déjà mais... là, ça a été la mêlée.
Non, commencez pas à me couper la parole, Victoria, s'il vous plaît. Bon. On y va tous un peu en traînant les pieds. C'est quand même scandaleux. Quoi. Non, mais vous n'êtes pas animatrice, vous êtes speakeuse. Bon, on y va, parce que c'est vraiment, on sait que ça va être une expérience quand même difficile et fatigante. Parce que ça commence le samedi. Nous, on va installer nos stands, nos livres, tout ça, dès le samedi. Bon,
Ah, bah oui.
Hein.
Ah, c'est pour ça que tu as eu de la place.
C'est pour ça que j'avais de la place. Hein. Mais dès le samedi, moi j'arrive, et puis après je mets des gardes du corps pour qu'on ne vienne pas me prendre mes places. Et puis, c'est toujours la même chose, dès 10h le matin, parce que 10h c'était déjà plein. C'est-à-dire, c'était à peine ouvert que c'était déjà plein.
Comme les vieux ivrognes bourrés à 10h du matin.
Oui, c'est ça, en gros. Oui, mais c'est différent, là. C'est une autre sorte d'ivresse. C'est une ivresse fort sympathique et tout à fait autorisée par la loi et par les bonnes mœurs. Les gens viennent tout de suite très, très nombreux. Alors ça, c'est la chose sympathique. C'est qu'on y va toujours un peu entrer dans les pieds parce qu'on sait que ça va être très fatigant. Et on en ressort vraiment assez remonté. On se dit, bon, c'est quand même extraordinaire. Oui, mais c'est une bonne fatigue, c'est une saine fatigue, voilà. Victoria, oui, c'est une saine fatigue. Alors, ce que j'ai pu remarquer, moi, cette année, par l'affluence habituelle, peut-être même un peu plus habituelle que d'habitude, un peu plus habituelle que d'habitude.
C'est joli, ça.
Ah oui, non, mais moi,
je ne comprends pas très bien, mais c'est du pays
réel, de la langue française, donc je fais des efforts. Ce que j'ai remarqué cette année, c'est deux phénomènes.
Le premier, c'est catch, et quel est le deuxième?
Oui. Le premier, c'est que je pense que le public s'est beaucoup renouvelé et avait une composante plus jeune que d'habitude. Et deuxième chose que j'ai remarqué, parce qu'il est venu cinq personnes, dont deux couples ou trois couples, je ne sais plus.
Ah, tu les as vus tous les cinq?
Ah oui, oui, oui. Ah, je compte tout, moi je note tout, c'est un petit carnet. J'ai vu donc cinq ensembles de personnes qui sont venues et qui étaient des auditeurs de province, c'est-à-dire des auditeurs qui n'écoutaient pas sur les différentes fréquences sur lesquelles nous émettons en modulation. C'est-à-dire Paris, Le Mans, Chartres, Caen, Le Havre.
Il est très bien. Hein.
J'espère que je n'oublie rien parce que je suis le dos au panneau, donc je ne vois pas.
Je ne vois pas non voilà. plus.
Alors, moi, j'ai eu il y a eu deux auditeurs de Bretagne, il y en a eu du Midi, un de Nantes. Enfin, bon, ça, c'est très intéressant. Ça veut dire, en fait, que le fait que Courtoisie soit passé sur TPS, eh bien, ouvre. Commence à ouvrir, parce que c'est quand même très long, il faut que les gens s'intéressent, s'abonnent, etc.
Il y a beaucoup d'auditeurs.
Aussi, oui, mais alors là, par contre, on n'a pas eu beaucoup d'Australiens. Moi, j'en ai pas vu, hein. Ni de Canadiens, ni de...
Je vois qu'en province, les gens écoutent sur Internet. Ouais. J'ai un ami ce matin qui me disait...
Absolument,
en province,
il y a Internet et TPS, et c'est vraiment tout à fait magnifique.
Et les gens de Vexil la Régis qui sont venus me voir...
Magnifique, oui,
ils sont venus aussi te voir.
Oui, bien sûr.
Et encore que ce ne soit même pas un site légitimiste, royaliste.
La dame est venue m'embrasser, moi.
Ah ouais, pas moi, c'est curieux.
Alors, ils écoutent, et ça, je trouve que c'est une chose vraiment tout à fait remarquable et bonne pour le futur. Alors évidemment, les gens sont en fin de compte très sympathiques, très gentils.
Non, il faut dire ce que c'est que Vexil et Régis, parce que...
Oui, bah vas-y. Moi, j'ai jamais réussi à monter sur le site.
Non, bon, alors, bah, oui, ça mais... me rassure. Il y en a des plus bêtes, tu vois. Vexil et Régis, c'est ce qu'on appelle un forum.
Un forum de discussion, oui.
Légitime, non pas, pas légitimiste, pardon, oh là là.
Non,
Franck Girardin m'a arraché les yeux, etc. Bon.
Généraliste.
Donc, royaliste en général, et c'est extrêmement sympathique. Quelques, je ne sais pas, 150 personnes qui bavardent et qui donnent leurs opinions sur la situation à la lumière de leur espérance royaliste. Et c'est très très bien fait. Alors, pour y accéder, il y a une adresse. Si un vexillaragiste m'écoute, il peut me téléphoner pour me donner l'adresse parce que je ne l'ai pas noté.
Mais c'est vrai que c'est très, d'après ce qu'on me dit, c'est très sympathique.
C'est très 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 sympathique.
Je sais que tu interviens assez souvent d'ailleurs.
Mais oui, parce qu'il y a des... Il y a des enguirlandages rigolos entre...
Tu veux faire ton journal, tu vas sur l'internet.
C'est le seul site quand même où les bucettistes ont droit à la parole.
C'est vrai.
Hein? Les bourbons bucets sont considérés vrai. Comme...
Dont l'aîné d'ailleurs est décédé samedi.
Ben oui, voilà. Alors, donc on a eu droit, et je le dis sans aucune... Enfin, d'une façon un peu légère, on a eu droit. On a eu un hommage à Bourbon Bucet, c'est Jacques.
C'est Jacques.
C'est Jacques de Bourbon Bucet qui est mort samedi. Et c'est à la fois très très vigoureux dans les engueulades, mais très sympathique, très charmant. C'est vraiment.
Bah, ça montre que le débat existe, quoi. C'est pas un faux débat, c'est un débat auquel beaucoup de gens.
C'est vraiment quelque chose de chez nous. C'est des gens de qualité. Alors il y a des.
Alors
des il y a même des Belges.
Après, voilà. Après cette parenthèse sur Vexil et Régis.
Bah quand même, je peux dire.
C'est très bien, c'est très bien. Un jour, on peut faire une émission sur Vexil et Régis.
Mais on fera ça. Voilà.
Bon, moi, je dois dire que c'était vraiment, c'était fort utile. Alors évidemment, on peut dire voilà, il n'y a pas assez de place. Et c'est vrai qu'on commence à être un petit peu serré comme des sardines. Il y a quand même des 3-4 moments dans la journée, 10h30,
il n'y a pas assez de vin, il n'y a pas assez de sandwich.
Le vin, il ne faut pas boire de vin, ça c'est normal.
Il ne faut pas boire
ni manger. Enfin, pour les animateurs, nous avons autre chose à faire. Mais, enfin, sauf Serge. Mais, c'est vrai, je t'ai vu beaucoup à la buvette.
Alors, pas vrai. Là, tu en as menti. Je n'y ai pas mis les pieds parce que...
C'est de la calomnie.
T'étais juste en face.
Merci, monsieur l'abbé. J'étais juste en face.
Non, c'est pas la calomnie, c'est de la radio.
Ce sont les auditeurs qui très gentiment
t'ont apporté des bouteilles,
me chercher des bouteilles, absolument. Oui, oui. Et là, je dois dire que
moi, j'ai pas eu ce bonheur,
touché jusqu'au tréfonds.
J'ai pas eu ce bonheur. Enfin, en tout cas, donc, je trouve que c'est une expérience quand même. Elle est pas rare, elle est unique en fait.
Attends, tu connais beaucoup de librairies où on paye 150 balles à l'entrée.
On n'a jamais vu dans l'histoire du monde des gens payer 150 francs pour rentrer acheter des livres. C'est une chose totalement...
Et découvrir un buffet vide.
Quasiment.
Oh, mais non, il n'était jamais vide.
Ah non. Moi, je pense qu'au bout d'une heure,
il y a
plus rien. Mais bon, peu importe.
Mais aussi renouvelé tout le temps.
C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors bon, peut-être qu'il faudra...
Non, ce qui est rigolo en plus, c'est que les auditeurs qui viennent, ils ont leurs idées.
Ah oui,
ils ont leurs idées, ils ont leurs convictions, ils ont leurs passions. Alors ils viennent et ou ils viennent nous engueuler, nous, ce qui m'est arrivé quand même. Ou alors il y a un monsieur qui a dit, venez avec moi, je vais aller engueuler Griotrey. Je lui ai dit, attendez, j'ai autre chose à faire. Pour l'instant, je suis un peu retenu. Dis-moi, mais je vais y aller quand même. Alors, je ne sais pas s'il est allé vraiment engueuler Griotrey, mais il était parti, pillé en tête. Et lui, il avait payé, c'est quand même extraordinaire, 150 francs l'entrée pour le seul plaisir d'engueuler Griotrey.
C'est bizarre. Enfin, moi, j'ai pas eu ça. Personne n'est venu m'engueuler, je dois dire. Et j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus, mais même très, très émus, très timide, enfin comme si on était des stars.
La plupart des gens qui m'ont engueulé, c'est en me disant pourquoi vous donnez tant d'émissions à Amish.
Eh bien, il y a des gens qui ne m'ont pas engueulé, mais qui m'ont dit gentiment, ah vraiment, qu'est-ce qu'on aime vos émissions. Mais alors celui qui est avant, qui sait déjà.
Ah tiens, à propos, il faut quand même que je dise une chose, cette réunion de dimanche n'a pas été totalement inutile, puisque nous avons, je ne peux pas dire qu'on s'est réconciliés parce qu'on n'était pas fâchés, mais comme on a tous les deux un peu la tête près du bonnet, ça devenait un peu chaud.
Oui, c'est vrai.
Et en tout cas, on est tombés dans les bras l'un de l'autre avec le professeur Erlougan. Et par conséquent, je vous signale qu'il sera là le mois prochain. Quel jour, tu te souviens?
Alors là, je ne me souviens plus, mais c'est pas en fin de mois, mais en début de mois. C'est vers le deuxième tiers ou le troisième
en
quart
tout cas,
du mois. Oui.
Vous retrouverez
Bernard Lugan.
Je le dis aux trois auditeurs qui m'ont fait remarquer qu'ils avaient envie de l'entendre. Trois, peut-être un peu plus. Peut-être plutôt 300.
Chaque auditeur qui vient vous voir représente 1000. Vous savez que c'est les règles des journaux, ça.
Donc c'est 300 000 auditeurs.
Si seulement chaque auditeur que nous avait 10 francs représentait 1000, on serait riche.
Alors
ce qui est très bien d'ailleurs, ce qui est très beau, parce que moi j'aime la réconciliation, moi je suis pour la réconciliation, ce que j'aurais pas
pu faire. Non, mais on ne peut pas se réconcilier, on n'est pas fâché.
Ce qui est très beau, c'est que Lugan retrouve sa chronique dans ton journal sans que j'en sois moi exclu.
Ah bah on s'est débrouillé quand même, parce que j'avais le choix entre me fâcher avec toi et Lugan. Je préférais me fâcher avec toi qu'avec Lugan, puis finalement je me suis dit le mieux c'est de se fâcher avec personne.
Donc. Voilà.
Voilà, donc à partir de dorénavant jusqu'à désormais inclus, Bernard Lugan sera une fois par mois à des dates variables, mais il sera là,
variable,
les dates sont fixées.
Oui, c'est bien.
Voilà.
Très bien. Tout le monde en est
autre chose
satisfait.
À dire
Pas tout de suite, mais par contre, peut-être, toi, mon chercheur, tu as des choses à dire sur la journée de dimanche.
Non, je suis très content.
Attendez, un auditeur nous demande que vous parliez à M. Amish. Vous lui dites, demandez à M. Amish de dire qu'il ne dispose personne non légitimiste d'aller se faire voir.
Ah oui,
il l'a dit deux fois la semaine dernière, c'est très fâcheux.
Oui. C'est à propos.
Il n'a pas dit ça. Il a été beaucoup. Il a dit à propos de Napoléon.
Parce que c'est le personnage d'histoire de France que je méprise le plus. Voilà.
Tu t'énerves.
Plus que De Gaulle. C'est dire si vraiment.
Non.
Je hais ce type, je hais ce bonhomme parce que.
On arrête.
Je le hais. Non. C'est un type qui a fait zigouiller plus d'un million de jeunes Français, ce qui a été le début.
Il a tué encore plus d'étrangers quand même.
Oui, mais c'est absolument lamentable. C'est lui qui a fait en sorte que l'Allemagne soit réunifiée avec tous les enquiquinements qu'on a eu dans les siècles qui ont suivi. Et c'est un personnage que je méprise alors au plus haut point, mais vraiment au plus haut point. C'est le personnage d'histoire de France que je méprise le plus.
Bon, alors ça va. Alors c'est comme Staline, le type qui a tué le plus de communistes, c'est Staline, le type qui a tué le plus de Français, c'est quand même.
C'est Napoléon.
Alors je lis des messages que naturellement Victoria ne voudra pas lire. Merci. Ami de la gnose, bonsoir, nous dit cet auditeur.
Ah, c'est pour toi, c'est pas pour moi.
Ouais. Heureux de vous retrouver après. Attends. Heureux de vous retrouver après 15 jours d'Amish, ça fut très dur. Et puis vous aussi, vous avez votre paquet, mon cher Louis-Rémy. Méfiez-vous de monsieur Rémy, il est encore plus fanatique et extrémiste que moi, faut le faire. Alors je sais pas si vous êtes fanatique et extrémiste, mais enfin voilà un auditeur.
Bon, on a tous notre paquet, c'est bien.
Qui ne cache pas son. Non, la Bessélie.
Il n'y a rien, il n'y a pas de post-scriptum pour la Bessélie.
Non, rien du tout.
Mais
gentil, j'espère. Je pense parce que.
C'est pas pour tout de suite. Mais monsieur l'abbé Cellier, vous n'avez pas faire désordre dans mon administration.
Oui, mon enfant.
C'est une suggestion pour la fête de l'année prochaine. Ne pensez-vous pas que la fête de courtoisie pourrait se tenir dans l'un des amphithéâtres de la Sorbonne?
Ils sont trop petits.
Qu'en pensez-vous?
C'est trop petit. Les gens ne se rendent pas compte.
Et le champ de Mars, si fait beau, ce serait bien.
Non, c'est beaucoup plus petit que la grande salle de la Mutualité.
Moi, je propose que la prochaine fête se tienne de la Bastille à la République.
Oh non.
Oui,
non.
Non, bon, c'est tout.
J'apprécie beaucoup que M. de Becketch ait réouvert l'antenne à Bernard Lugan. C'est un très, très beau geste auquel je suis sensible. J'aurais été peinée de ne plus entendre Bernard Lugan.
Signé BL, non?
Non, manquant que ce soit un monsieur. Alors... Vous continuez si vous voulez, peut-être.
Non, c'est bah des insultes, vous voulez pas les...
Non, la dame de Bagneux, Mireille,
oui.
Qui a, je crois, 80 ans,
oui.
Et est handicapée, n'a pas pu venir dimanche. Je suis ravie que cette fête ait été une réussite. J'embrasse Serge et j'ai fait partie de l'élite.
Mais je veux dire, nous avions aussi quelques handicapés ce jour de dimanche. Oui. Un tout jeune garçon d'ailleurs.
Oui, il y avait des handicapés. Il y avait un Africain.
Ah, il y a tout.
Il y avait des handicapés, il y avait un Africain. C'est un Congolais du Congo.
Et mais très bien.
Qui est un type formidable.
Mais oui.
On va se voir prochainement, on va rompre le pain de mille et boire du vin de palme.
Et la bière de...
Non, mais c'est vrai. Il est adorable, ce garçon. Tu l'as rencontré.
Il y a des gens qui sont venus à mon centre, mais je me souviens plus.
Voilà, c'était un grand moment d'amitié. C'est très bien. Moi, j'étais très content.
Mais les auditeurs,
Qu'une chose qui n'a pas collé, c'est que toute la journée, les auditeurs sont venus à mon stand en disant à ma femme, ma petite femme, bonjour madame, vous êtes Victoria. Et ça, elle a trouvé ça moyennement drôle quand même.
Vous n'y êtes pour rire.
On a décidé que l'année prochaine, on mettrait chacun une grande pancarte.
Un grand t-shirt avec Je ne suis pas Daniel de Becketch, je ne suis pas Victoria.
Très bien.
Est-ce que vous avez lu mon prochain numéro qui sort demain?
Non, je ne l'ai pas encore lu.
Bon, il y a au moins un article que vous avez lu quand même. Aidez-moi à en parler. Non.
Non.
Bon.
J'ai pas eu les 4 derniers numéros parce qu'il y a la grève dans mon quartier.
Le 19e est en grève.
J'espérais qu'elle aurait lu au moins un article, mais non, rien du tout. Parce que je voulais dire aux auditeurs qu'il y a un article formidable à partir de désormais, ceci jusqu'à dorénavant inclus, non? C'est pas ça qu'on peut dire? Non, c'est le contraire.
Dorénavant, jusqu'à ce désormais.
J'espère que ça serait l'occasion de présenter le fait que. Il va y avoir une rubrique de télévision dans le libre journal.
Voilà autre chose.
Ouais. Ce qui est difficile, une rubrique de télé dans un décadère. Seulement, cette rubrique de télé, elle est signée du zappeur camembert.
Rien ne nous aurait été épargné.
Non. Attends, je t'ai pas dit qui était le zappeur camembert.
Oh, on peut pas savoir.
Mais si, tu vas le savoir tout de suite, parce qu'il l'avoue, il le proclame, c'est Mathilde Krust qui a laissé sa plume. À François Brignot, qui l'a immédiatement revendu aux zappeurs camembert.
D'accord. Très bien.
Donc je signale aux auditeurs qu'à partir de dorénavant, et ceci jusqu'à désormais inclus, comme je le disais tout à l'heure.
Mathilde Krust, donc
tous les 10 jours.
Sa plume.
Non, c'est plus Mathilde, elle a été renvoyée. Oui, c'est un divorce, c'est brutal.
Donc c'est le zappeur camembert maintenant.
Pas du tout, elle a dit qu'elle était trop vieille.
Voilà, elle est trop vieille. Alors, donc,
elle avait passé l'âge.
Vous saviez tout ça? Pourquoi vous faisiez toute affaire des minauderies à faire semblant de
ne pas
savoir?
Non, parce que ça,
essaie toujours
elle
de faire parler les autres et de ne pas parler lui-même.
Enfin voilà, donc Brignot s'est fait accompagner du zappeur camembert pour publier une rubrique télé décadère. Je le signale parce que ça devrait normalement susciter l'intérêt du lectorat. Et je peux vous dire que le premier numéro est pas mal.
C'est dur pour Soft Story, Love Story.
Non, ça je ne parle pas. On n'en parle pas. Trois lignes.
Très intéressant.
Mais il en parle un tous les jours, paraît-il. Alors donc peut-être que dans quelques jours.
Oui, mais ils renouvellent.
Ils renouvellent.
Oui. Ceux qui s'en vont d'eux-mêmes, ils renouvellent. Mais maintenant, ils vont en jeter.
Oh, c'est bon,
là,
ça.
C'est très dur. C'est très, très dur.
Ça, c'est l'expérience.
C'est le degré zéro de l'abjection.
La France qui lit était la radio courtoisie.
Bon, les auditeurs
et celles qui
pas,
ne lisent
voilà.
pas
voilà.
restent...
Ils écoutent Vienne.
Non, mais voilà. On peut parler quand même de ce truc-là, parce que tout le monde en parle. Mais moi
je trouve qu'on ne devrait pas en parler.
Voilà, on ne devrait pas en parler. On est d'accord.
C'est lamentable.
Allez, ça y est, c'est fini.
Est-ce que je peux vous dire ce qui m'a été dit de plus gentil? Parce que on ne me trouvait pas, mais on me trouvait tout de même. Il suffisait que j'ouvre la bouche, et vous savez que j'ai du mal à la tenir fermée. Et aussitôt que j'ouvrais la bouche, je me disais « Ah, vous êtes Victoria !» Et alors, ils sont très, très, très gentils. Et ce qui m'a été dit de plus gentil dans le lot, c'est « Quand je vous entends, ça me met de bonne humeur. »
Vous êtes bien la seule.
J'ai commencé à marcher 10 cm au-dessus du sol.
Bon, ben c'est bien.
Voilà.
Merci. Alors bon, le numéro d'autosatisfaction, maintenant, on arrête voilà. Et on repasse un peu à l'autocritique.
Non. Alors non, et pas d'autocritique. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'aux auditeurs qui m'ont demandé des nouvelles du docteur Plantet, parce qu'il est fort intéressant, je voudrais leur dire que justement, à partir de aujourd'hui, le docteur Plantet va subir une opération assez délicate. Je vais pas plus loin dans les confidences, mais et donc je leur demande de passer à lui dans leurs prières pour lui permettre de passer ce cap pas périlleux mais un peu difficile. Ensuite, je voudrais recommander aux auditeurs qui s'intéressent à des choses un peu en dehors de l'actualité de lire un document qu'on peut trouver très facilement, on peut le trouver partout dans Paris. J'ai acheté tout à l'heure, tout à fait par hasard. L'itinérant. Vous savez ce que c'est que l'itinérant? C'est un journal qui est vendu par des clochards. On appelle ça maintenant des SDF quand on veut faire chic. Et à l'intérieur, il y a un article du directeur de l'itinérant qui s'appelle Monsieur Cloutot, qui a eu une crise cardiaque au cours d'une randonnée. Il a été frappé brutalement par une crise cardiaque. Et il raconte ce qui lui est arrivé. Et c'est extraordinaire. Alors, si vous voyez un clochard qui vend l'itinérant, le dernier numéro en cours, là, achetez-le, et vous allez découvrir un magnifique papier de quelqu'un qui n'était probablement pas un esprit très 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 religieux, mais qui, à la faveur, je dis bien à la faveur de cet accident cardiaque lourd, où il est allé aux portes de la mort, a découvert quelque chose et a rencontré quelqu'un. Et quelqu'un que vous connaissez, M. Labbé, normalement.
J'espère pour lui que c'est le bon Dieu,
oui,
en tout cas.
Je pense que c'est ou son fils, en tout cas. Voilà. Mais c'est quelqu'un d'assez recommandable. Et c'est un magnifique papier. Donc, je vous répète, si vous voyez passer un clochard avec l'itinérant, achetez-le. J'ai lu ça tout à l'heure. J'ai été bouleversé par ce papier. Et puis, je voudrais quand même saluer le président de la République, Jacques Chirac, qui a réalisé le plus beau coup des 5 dernières années, au moins, voire des 10 ou des 50, quand il a lu l'interview du général Ossarès et qu'il a dit...
C'est le général Thureau, moi.
Non, c'est pas Thureau, c'est Ossarès. Non, Thureau, il tuait des êtres humains. Et donc, il a découvert les confidences du général Ossarès et il a dit comment les tortures en Algérie, personne ne me dit rien. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis épouvanté. Donc,
horrifié.
Horrifié, voilà. Alors maintenant, c'est assez clair. Je vais vous dire, ça sera coupé en rediffusion, mais tant pis. Ou ce type-là nous prend pour des cons, ou lui-même n'est pas blanc-bleu. Parce que, même moi, qui ne suis pas président de la République, j'ai vaguement entendu parler de l'éventualité de certaines méthode un peu efficace en Algérie. Et apparemment, lui, président de la République, qui a main sur l'armée, d'abord qui était soldat en Algérie, ce que je ne sais pas parce que j'étais trop jeune, ensuite qui a été ministre de l'Intérieur, non, Chirac. Oui, hein, il était Premier ministre, il a été président de la République, arrêtez-moi si je me trompe, et il n'était pas au courant. Et il a fallu que le général Ossarès écrive ses mémoires pour qu'il découvre qu'il y aurait pu avoir des tortures en Algérie. Et alors j'en viens à me demander si cet homme est parfaitement sérieux et parfaitement digne du poste qu'il occupe. Je ne réponds pas, je pose une question.
Hein. C'est une bonne question.
C'est une bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Dans l'annonce du programme, vous avez oublié de célébrer, comme il convient, les 20 ans de l'arrivée de M. Mitterrand au pouvoir. Tout de même.
Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose très simple. Quand je vois ce que fait celui qui est là depuis 6 ans, je me dis qu'on n'a pas suffisamment apprécié celui qui est resté pendant 14. Avant.
Mitterrand était de droite.
Non.
Tandis que Chirac est de gauche.
Oui, même pas. Non, mais c'est pas. Enfin, c'est une honte. C'est cette espèce de sidération médiatique sur Mitterrand, qui est mort, enfin, paix à son âme, qu'on n'en parle plus. Il nous a, pendant 14 ans, il a été chef de l'État. Il a fait vraiment n'importe quoi. C'est et aujourd'hui, qu'il est mort depuis combien? 4, 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Il est mort l'année qui a suivi l'avènement de M. Jacques Chirac à la présidence de la République. On ne parle que de ça.
Ouais.
On ne parle que de ça. Il y a des numéros spéciaux du monde, des émissions, la télévision, voilà, sur toutes les chaînes, on a des interviews exclusives, des machins. On s'en fiche. On s'en tape. Voilà.
Ah. Oh. Donc, Napoléon, Mitterrand,
Chirac aussi.
Ah bon, c'est
si
bien.
Tu veux,
oui. Bon, ben ça va, je suis bien arrivé à lui savonner la planche. Maintenant, je pense que je vais pouvoir récupérer des demi-émissions.
Et alors, vous avez récupéré une adresse, mais que je vous laisserai lire, parce que moi, l'Internet, je trouve c'est un peu dur.
Bon, alors, oui, c'est ça, c'est le... L'adresse de Vexilla Registro. Alors, c'est...
Attention, prenez vos stylos.
Non, il y a un piège là, c'est pas ça du tout. Parce qu'on me dit France Royaliste, en un seul mot, .free.fr.
Non,
je
ne
crois pas du tout que ça soit ça. C'est un jeunesse. Ah ben non, c'est pas un jeune escroc, c'est un Vexilla Régis. Alors donc, ben voilà. L'adresse pour Vexilla Régis, c'est. Pardon. http://.
Doucement.
Non, mais tout le monde sait ça, Victoria, là. C'est le HTTP, tout le monde, on l'a ça, on a même pas besoin de le taper, on le connaît par cœur. Il n'y a même plus besoin de le taper maintenant, d'ailleurs.
http://franceroyaliste en un seul mot, .free.fr.
www.free.fr.
Non, il n'y a pas W. Non.
Pas W.
Il
n'y
a pas de W là-bas, c'est encore mieux alors. Il n'y a pas le wa.
Non, il n'y a pas le wa. http://franceroyaliste.
Vous savez, monsieur Labbé, vous savez ce que c'est que le www en hébreu?
Voilà, moi je ne suis pas spécialiste de ça, non.
Comment? Vous ne savez point?
Non, mais
www.
Il y a toujours monsieur Bonal qui a toujours toutes sortes de théories sur ces choses-là.
Ah, c'est le triple WAF, c'est le 666.
Waouh, c'est le 6. Waouh, c'est la valeur numérique de cette consonne hébreu, puisqu'il n'y a pas de voyelle en hébreu. Ce sont des signes qui donnent la vocalisation. Et le waouh, le W, ce qu'on traduit nous par W, c'est 6.
Voilà. Vous avez compris ça? Ça n'a pas l'air de vous émouvoir beaucoup.
Non, j'utilise pas beaucoup Internet.
Bon,
Vous pourriez quand même pratiquer un peu la sainte écriture. Ce qui est d'ailleurs... Le 666 étant d'ailleurs une des... Comment dire, une des significations possibles dans l'évangile de Jean de Orodos, c'est-à-dire des Hérodes, puisqu'il y a deux, trois fois le waouh dans Orodos, en grec. Orodos, c'est le haut. Bon.
Ben, je vais vous laisser alors parce que je vois que...
Voilà, on soufflera la lumière avant de partir.
Voilà. C'est ça,
nous avons un spécialiste de numérologie, laissons-le parler.
Pas du tout, non.
Il nous fait un numéro. Bien, alors...
Et on aimerait avoir des nouvelles de M. Chabanis qu'on n'entend plus. Ça y est, j'ai fini mon dernier message.
Alors, j'ai un message de Michel Reboul, mais je le lirai tout à l'heure. Enfin, j'en ferai état tout à l'heure, parce que je constate qu'il y a eu un malentendu. Mais c'est pas grave, on arrangera les malentendus. Ça s'arrange toujours, il suffit d'ouvrir les oreilles. Donc maintenant, monsieur l'abbé Cellier, Louis-Hubert Rémy, nous allons débattre, enfin, vous allez débattre, d'une question qui est une question... centrale depuis quelques semaines maintenant dans l'actualité catholique, et en tout cas dans l'actualité de la tradition, c'est celle des pourparlers qui ont été conversations qui ont été engagées avec le Vatican pour essayer de régler.
Les conversations, chacun tire la couverture à lui, mais ce sont des conversations, chacun voit midi à sa porte.
Alors, l'objectif de ces conversations, c'est d'obtenir la reconnaissance par le Vatican que, en réalité, les interdits qui sont réellement prononcés contre la messe traditionnelle sont totalement infondées et ne s'appuient sur aucun texte et aucune règle. Et pour le Vatican, on peut penser que c'est pour parler ou pour objet de, moi je dirais, phagocyter, réintégrer, avaler, assimiler la fraternité Saint-Pie-X.
Voilà. Non, je pense que le but que nous poursuivons, d'abord, tout d'abord, ce n'est pas nous qui avons commencé ces conversations, c'est le Vatican qui est venu vers nous. Mais le but n'est pas de la liberté de la messe, de nous parler, donc la levée des interdictions, la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu d'interdiction sur la messe réelle, mais c'est un préalable. C'est un préalable, justement, aux conversations. Et pour l'instant, ce préalable n'étant pas donné, les conversations sont, disons, au point mort. Elles sont puisque nous avons demandé ce préalable comme base pour éventuellement discuter, ce préalable n'étant pas donné, il n'y a pas pour l'instant de conversation. Qu'elles ne se poursuivent pas, sinon de façon très informelle, comme ça s'est toujours fait. Mais alors, de la part du Vatican, de Rome, certainement, leur but général est effectivement de régler le problème de la fraternité, disons, de façon grossière, cette description pouvant s'entendre de diverses façons. Il y a effectivement certainement des gens qui veulent essayer de la liquider, d'autres qui voudraient l'utiliser, d'autres peut-être qui ont quand même des bonnes intentions en essayant de régler le problème de fond. On peut l'imaginer, disons.
Alors, Louis-Bérémy, la raison de votre présence ici.
Bien, c'est-à-dire que moi, je pense qu'avant de parler des pourparlers, il faudrait parler du problème de fond dont vous venez de parler. Et le problème de fond est résumé en une seule phrase dans un livre qui a été peu diffusé, mais qui est absolument remarquable, un livre préfacé par Mgr de Galarreta en 1998, qui s'intitule « De la cabale au progressisme » de l'abbé Mainviel. L'abbé Mainviel est connu de tous les spécialistes, c'est un homme éminent. Et la conclusion de son livre tient en deux lignes. La conclusion du présent ouvrage est claire et nette. Dans toute l'histoire humaine, la pensée et la vie n'ont que deux formes fondamentales, la catholique et l'agnostique. Tout le livre est donc pour expliquer ce combat entre la religion catholique et la religion gnostique. Et Mgr de Galarreta précise donc dans sa préface l'impossible accord entre la foi catholique et la pensée moderne foncièrement antichrétienne. C'est précisément toute la nouvelle théologie, l'enseignement habituel de la hiérarchie, Vatican II, son esprit et son application. Et si nous reprenons les deux derniers textes de Mgr Lefebvre juste avant de mourir, c'est assez intéressant de souligner un certain nombre de passages. Le dernier texte écrit par Mgr Lefebvre est la lettre qu'il a envoyée à l'abbé Tam le 4 mars 91, donc 20 jours avant de mourir, un texte d'une grande gravité puisqu'il met... Bon, il présente le travail de l'abbé Tam, documentation sur la révolution dans l'Église. Documentation, il y a un certain nombre de tomes qui ont été faits là-dessus et qui sont très peu diffusés et très peu connus. C'est assez étonnant. D'ailleurs, l'abbé Tam étant un prêtre de la fraternité Saint-Bédis. Et Mgr dit, ce regroupement jette une lumière tellement fulgurante sur la révolution doctrinale inaugurée officiellement dans l'Église par le Concile et continuée jusqu'à nos jours, qu'on ne peut s'empêcher de penser au siège d'iniquité prédit par Léon XIII ou à la perte de la foi de Rome prédite par Notre-Dame de la Salette. La diffusion et l'adhésion des autorités romaines aux erreurs maçonniques, condamnées maintes fois par leurs prédécesseurs, est un grand mystère d'iniquité qui ruine dans ses fondements la foi catholique. Cette dure et pénible réalité nous oblige en conscience à organiser par nous-mêmes la défense et la protection de notre foi catholique. Le fait d'être assis sur les sièges de l'autorité n'est plus, hélas, une garantie de l'orthodoxie de la foi de cœur de ceux qui les occupent. Le pape lui-même diffuse désormais sans discontinuer les principes d'une fausse religion qui a pour résultat une apostasie générale. Et Mgr finit en précisant que le restaurateur de la chrétienté, c'est le prêtre par l'offrande du vrai sacrifice, par la collation des vrais sacrements, par l'enseignement du vrai catéchisme.
Alors, attendez, Louis-Marie, mais pardon. Ce que vous venez de nous lire, là, c'est un texte de Mgr Lefebvre, ou c'est Mgr Lefebvre qui cite...
C'est un texte de Mgr Lefebvre. C'est un texte de Mgr Lefebvre, c'est la préface des brochures de l'abbé Tam. Et Mgr Lefebvre, quelques mois avant, dans une des dernières conférences qu'il avait faites à Rome, qui a été éditée par le Sel de la Terre dans ce numéro 31, qui s'intitule « Nos relations avec Rome », a un certain nombre d'expressions très dures, qu'il est bon de rappeler, parce que c'est quand même l'ensemble, le résultat donc de sa pensée, de son combat, c'est la fin de son combat juste avant de mourir, et il dit... Je cite que des passages qui sont cités, on peut se reporter au sel de la terre. J'ai été surpris d'ailleurs de découvrir ce texte, non pas dans Fidélitaire ou dans les textes de la fraternité, mais dans le sel de la terre. Alors il dit tout simplement, Rome a perdu la foi, il quitte l'église, c'est sûr, 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 on ne peut s'entendre, on ne peut pas suivre ces gens-là, c'est l'apostasie, non ce n'est pas possible, pas possible, c'est incroyable, incroyable, comment voulez-vous que l'on puisse se fier à des gens comme cela, ce n'est pas possible, assise c'est très grave, c'est une apostasie, leur but c'est d'en finir avec la tradition, je crois que nous avons affaire à des gens qui n'ont plus l'esprit catholique, et personne ne dit rien, tout le monde se tait, c'est l'abomination, vraiment l'abomination. Ces personnes qui occupent Rome aujourd'hui sont des antichrists. Oui, je serai excommunié par ceux qui sont des antichrists, qui n'ont plus l'esprit catholique. C'est sûr, c'est clair. On ne veut plus la tradition. Un pape qui démolit l'Église, qui est pratiquement un apostat et qui veut nous rendre apostats, qui nous conduit à l'apostasie. Ils n'ont plus la notion de la vérité, ils n'ont plus la notion de la vraie religion, nous n'avons pas affaire à des gens honnêtes, ils ne travaillent plus pour le salut des âmes, c'est la vérité avec l'erreur, la vertu avec le vice, les amis de notre Seigneur avec les ennemis de notre Seigneur, c'est une abomination, c'est cela qui est à Rome maintenant, ils ne pensent qu'à cela, ils ne vivent que de cela, ils travaillent pour l'argent, ils ne veulent pas répondre, on n'est plus dans l'Église catholique, la Très Sainte Vierge va nous dévoiler ce mystère, la clé de ce mystère.
Alors attendez, Louis-Rémy, je vous interromps une seconde, parce que là le texte que vous venez de nous dire, c'est évidemment pas un texte écrit, parce que
C'est d'un texte écrit, de Monseigneur.
Avec ses répétitions, ce caractère...
C'est donc à 8 pages, c'est disponible dans un cahier que vous pouvez nous demander aux Amis du Christ au Roi de France, boîte postale 2, 44 140 Aigrefeuille. Pour 4 francs, vous aurez ce texte-là qui a donc été édité par le
Seigneur. C'est l'enregistrement d'une conférence,
oui, c'est ça. Conférence.
C'est une conférence.
Oui, parce qu'il y a un ton qui n'est pas celui de l'écriture. Bon, alors, là, je me tourne vers M. l'abbé Cellier. Vous admettez l'authenticité de ces...
Oh oui, non, mais je ne renie pas du tout l'authenticité de ces textes. On peut en citer un certain nombre. Monseigneur Lefebvre a très souvent parlé comme cela. Il n'a pas toujours parlé comme cela, puisque, je dirais, il y a deux faces de la crise. Et c'est ça qui fait la difficulté, la profondeur de cette crise. Et ce que Monseigneur Lefebvre disait, le pape, il parlait de Paul VI à l'époque, le pape est un libéral, c'est-à-dire un être essentiellement contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a une face qui est tournée vers sa charge pastorale, vers l'attachement à la tradition, et une face tournée vers les erreurs de l'œcuménisme, de la liberté religieuse, de la réforme liturgique, etc., etc. Et effectivement, Mgr Lefebvre parfois pointe les erreurs extrêmement graves, mais que nous voyons diffusées partout et qui sont claires, des autorités ecclésiastiques en place. Ça, c'est clair, c'est une chose qui est tout à fait vraie. Et en même temps, Mgr Lefebvre a toujours dit, il faut rester fidèle à la structure hiérarchique de l'Église. Ces gens-là sont dans la contradiction permanente et sont englués à la fois dans des erreurs, dans une certaine, parfois une certaine volonté de bien faire, et puis surtout, ils bénéficient, n'est-ce pas, de cette place d'être le pape, les cardinaux, etc. Et c'est eux qu'il faut éclairer. Mgr Lefebvre avait cette idée d'éclairer, n'est-ce pas, ces hommes d'Église qui sont dans l'erreur, qui sont en train de faire beaucoup de mal à l'Église. Si l'Église est dans un tel désastre, ça ne peut pas être sans la responsabilité de l'autorité. Mais en même temps, il avait toujours ce souci de garder ce contact pour aller, je dirais, prêcher la tradition à Rome et hors de Rome, manifester la vitalité de la tradition à travers les œuvres des œuvres traditionnelles, à travers la Fraternité Saint-Pédis et les autres œuvres, et puis bien sûr faire avancer la messe traditionnelle, comme il le dit, qui est les sacrements traditionnels, la foi traditionnelle, qui est la source de la sainteté.
En fait, est-ce que je vais vous poser une question à tous les deux. L'impression que je ressens en vous entendant, c'est que vous êtes spectateur, vous êtes les témoins plus exactement du même événement, et vous l'interprétez de façon différente. C'est-à-dire, vous voyez deux hommes qui sont en train de se débattre dans un lac, et vous, Louis-Rémy, vous dites, celui qui est en train de se noyer essaie d'entraîner son sauveteur vers le fond, et vous, monsieur l'abbé Cellier, vous nous dites, le sauveteur essaie de tirer celui qui est en train de se noyer vers le rivage.
Oui, ben est-ce
que ça vous paraît acceptable comme
ça
comme image?
Ça paraît acceptable, mais c'est impossible pour l'Église. Parce que quand on connaît les 6 péchés contre le Saint-Esprit, il y en a un qui est très grave, et les péchés contre le Saint-Esprit sont difficilement rémissibles. Il y en a un qui est très grave, qui s'appelle donc aller contre la vérité connue. Saint Paul va même très loin, je citerai le passage un peu plus tard, il dit que les gens qui ont connu la vérité une fois ne peuvent pas se reconvertir. Bien. Mais ce qui est grave, c'est qu'on pense que c'est cette hiérarchie conciliaire dirige donc l'Église catholique, ce qu'ils appellent, ils pourraient nous dire, c'est l'Église catholique. Or, nous sommes maintenant convaincus qu'il y a d'autres personnes qui dirigent tout ce travail. Et que l'Église conciliaire et la secte conciliaire, et l'Église est éclipsée, c'est mon point de vue, hein, et quand il y a éclipse, il y a deux astres. Ce qui fait que le premier astre qui éclipse l'autre n'est pas l'Église catholique. Hein. Et donc, ils sont dirigés par d'autres, et nous en avons une preuve terrible par le document que vous avez cité d'ailleurs dans le Libre Journal, qui émane de la Société de Presse, et j'ai eu la journaliste romaine qui a écrit ce document-là.
Oui,
je l'ai eu au téléphone.
Une chose étonnante, c'est que ce document était public,
connu, diffusé dans la revue de la Fraternité de Saint-Pédis en Italie, mais pas en France. Et ce document, c'est pas n'importe quoi. Voilà, la Société de Presse donc rappelle la réunion qui a eu lieu en octobre 99. Je pense que c'est l'événement le plus important de toutes ces dernières années. En octobre 99, 200 chefs de communautés religieuses donc se sont retrouvés à Saint-Pierre de Rome. On a des photos dans la revue de la tradition
de communautés religieuses, pas seulement catholiques et chrétiennes.
Toutes les religions, communautés religieuses. Alors, voilà les paroles du pape. Et je signale que j'ai donc demandé à la journaliste si c'était vrai, elle me l'a confirmé sans aucun problème. Le souverain pontife a demandé aux moines bouddhistes, aux prêtres de Zoroastre, aux cardinaux catholiques, aux gourous hindous, aux indiens américains, aux rabbins, aux arabes et aux clergés post-conciliaires que tous s'unissent pour condamner les fondamentalistes chrétiens qui se livrent à des excès de langage et dont les efforts à convertir autrui mènent à la haine et à la violence. Puis le pape a demandé aux chefs religieux de promouvoir la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect pour toutes les religions et fois, et pas seulement la leur. Puis le représentant de chaque confession se livra à des manifestations propres à son culte, rendant hommage à leur divinité. En échange, tous s'accordèrent pour reconnaître dans la personnalité du pape Jean-Paul II le guide spirituel et le gardien de toutes les religions de la planète. Les fondamentalistes religieux qui ne voudraient pas se joindre au mouvement œcuménique global devraient être réduits au silence et dénoncés comme de dangereux extrémistes. Liste des exclusions. Ceux qui sont exclus du mouvement œcuménique sont 1. Les traditionalistes catholiques. 2. Les traditionalistes protestants, qu'on appelle les fondamentalistes. 3. Les chiites musulmans. 4. Les juifs ultra-orthodoxes. Au Vatican et dans les cercles illuminés qui organisent le mouvement, il semble qu'on puisse ramener les chiites musulmans et les juifs ultra-orthodoxes à la raison, moyennant quelques avantages. Une combinaison d'accords et de puissance dans le mouvement, afin de n'avoir à traiter qu'avec les chrétiens de la tradition qui se demandent si le pape est encore catholique. La lettre catholique Auxilium Christianorum de New York, publiée à Long Island, rendait compte de l'événement de la manière suivante. Cité du Vatican, 28 octobre 1999. Les catholiques croyants du monde furent les témoins ahuris la réunion des zoroastriens, bouddhistes, shintoïstes et confucianistes, musulmans, juifs et autres religions réunies avec les représentants du World Council of Church et autres sectes hérétiques ou des deux dominations fausses sous les auspices de sa sainteté le pape Jean-Paul II. Cette assemblée panreligieuse se tint sur les marges de la vénérable basilique de Saint-Pierre de Rome et n'est rien de moins qu'une tentative de réunion en un seul corps de toutes les religions du monde, non fondée par la volonté de Dieu, mais par la volonté de l'homme.
Alors, attendez, je vous interromps une seconde, parce que ça, c'est ce qui avait été annoncé il y a 40 ans par l'abbé de Nantes.
Voilà, par Virion, par
le Masdu.
Jean Virion, il faut relire les textes de Virion. Tout ça, c'est annoncé.
Monsieur l'abbé Cellier, vous avez connaissance de cette circonstance?
Je dirais que je ne fais pas de théologie avec la Société de Presse. Les textes du pape sont publiés dans la documentation catholique. Donc, si texte il y a, je ne le connais pas particulièrement. Il faudra les lire dans la documentation catholique.
Non, lisez-le simplement dans la revue de la Fraternité en Italie.
Voilà, mais c'est une citation de la Société de Presse. Donc, il ne fait pas grand foi, mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement le pape a refait à cette occasion-là le scandale d'Assises, et que ce scandale, nous le dénonçons avec la plus extrême vigueur. Monseigneur Lefebvre disait c'est une forme d'apostasie, et nous le redisons, cette union dans la prière, alors que la seule prière orthodoxe, celle qui est une louange droite, l'étymologie, c'est la prière adressée au vrai Dieu par le vrai médiateur, notre Seigneur Jésus-Christ, dans la véritable Église. Donc là, effectivement, nous avons une opposition radicale, totale, et nous opposons à cela l'ensemble des documents, notamment de Léon XIII à propos du Congrès des religions de Chicago en 1899, et puis la grande encyclique de Pie XI sur Mortalium Animos, sur le faux œcuménisme. Ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher la Société de Presse pour savoir que nous avons une opposition radicale, fondamentale, avec cette volonté qui, je pense, chez Jean-Paul II est une volonté, je dirais, humaine. Il se dit, il faut rassembler tout le monde, il faudrait lutter pour la paix, etc. Mais qui, dans ses fondements théologiques, est une grave erreur. Est une grave erreur, car la prière à Bouddha ou je ne sais quoi, c'est c'est évidemment, comment dirais-je, une fausse prière, c'est une fausse théologie.
Mais je crois que, attendez, je voyais tout à l'heure, quand Louis-Hubert Rémy lisait le texte, je voyais mon excellent camarade Daniel Amiche faire des tas de mimiques. Mais ça voulait dire quoi?
Que le Saint-Esprit nous inspire tous ici autour de cette table, parce qu'on en a besoin.
Le Saint-Esprit, c'est pas non plus de dire amen et tout va bien.
Absolument. Mais qui a dit que tout allait bien? Voilà. Personne n'a jamais dit que tout allait bien. L'Église catholique, depuis sa fondation, elle a commencé de façon extrêmement chaotante.
Et à mon avis, ça va continuer un moment.
2000 ans en chaotant.
Bon. Elle dira plus longtemps.
Maintenant, il faut aussi arrêter un peu de délirer et d'avoir peut-être un peu paranoïaque sur ces questions. Le pape, moi j'avoue que l'affaire d'Assise m'a jamais beaucoup branché, à titre personnel. C'est une opinion personnelle. Moi, je ne parle pas au nom de l'Église. Je suis un baptisé, un catholique parmi d'autres. Donc, je donne une opinion parce que c'est à la radio. À la radio, moi, je ne suis pas le légat du pape. Je donne mon opinion. Qu'est-ce qu'il y a, Van?
Excusez-moi, vous parlez tous les trois trop vite. Je pense que les auditeurs souffrent. Alors, je voulais vous dire, parlez un tout petit peu plus lentement.
Je vais parler un petit peu plus lentement. Mon opinion, c'est qu'Assise, c'était vraiment pas une réussite.
Mais en l'occurrence, on parle pas d'Assise.
C'est la même chose qu'on est en train de parler. Une espèce d'Assise bis.
Que donc il y a des chefs. Et ses chefs, et le pape est aux ordres.
Oui, mais il est aux ordres. Mais non, on ne peut pas dire ça, monsieur. Vous n'avez aucune preuve pour le dire.
Vous n'avez pas lu Élie Benamezeg.
Écoutez, vous n'arrêtez pas. Vous nous lisez des machins. Moi, je suis très content, parce que ça m'informe beaucoup. Moi, je suis très content. Moi, j'ai la radio, j'aime bien, parce que ça m'enseigne. Je suis très content. Comme je suis un imbécile, donc je suis très content d'apprendre des choses. Mais vous lisez des textes. Bon, vous lisez des textes, c'est très bien. Mais enfin, un texte, c'est pas la vérité en soi, quand même. Il y a quand même tout un débat qu'il faut avoir, une réflexion qu'il faut avoir. Donc, je suis d'accord, vous lisez des tas de choses. C'est très... Vous réfléchissez pas.
Élie Benamezel, vous comprenez, il y a eu les pères du concile.
Mais c'est qui Élie Benamezel? Je ne sais même pas qui c'est. Ça m'empêche pas d'être catholique.
Je vais vous expliquer. Il y a eu donc les pères du concile, Angskun, Karl Rahner, Schilbeck, Congar, etc.
C'est certains pères du concile.
Ils n'étaient pas pères du concile, ils étaient experts.
Ils étaient experts, conseillers auprès d'évêques.
Mais les conciliaires savent très bien que ce sont eux qui ont du poids et qui ont fait référence.
Mais on n'en est plus là, il est passé le concile.
Mais il y a eu deux grands-pères du concile, Jules Isaac et Élie Benamezeg. Et donc, Jules Isaac, donc quand même, on vient de demander dernièrement dans un livre important qu'il soit béatifié. Bon, ça vient pas de chez nous, je vais vous citer le livre tout à l'heure, mais c'est peut-être pas le plus important. Encore que Jules Isaac, je conseille donc aux gens de lire, à nos auditeurs, de lire le livre de Léon de Poncin, Le judaïsme et le Vatican, qui est disponible à DPF. Bon, il vous apprendra un certain nombre de choses. Bon. Mais alors, il y a eu Élie Benamezeg, dont on a parlé, et j'avais fait découvrir Élie Benamezeg dans mes multiples lectures, j'avais découvert ce personnage il y a déjà quelques années, et dont on a parlé dans l'église éclipsée. Qui est toujours disponible à Chiré, où on a longuement décrit ce que proposait Élie Benamezel.
Qui sait et qu'est-ce qu'il veut?
A été rabbin de Livourne, qui est mort donc en 1900, à peu près. Et alors, voilà son programme. Son programme est résumé dans quelques passages d'un livre qui mériterait d'être diffusé aussi, Le Sanctuaire Inconnu de Aimé Payer, son disciple, qui résume en peu de lignes tout le programme de Vatican II. La religion destinée au genre humain tout entier est la seule religion, c'est le noachisme. La religion conservée par Israël pour être transmise aux gentils. Il faut revenir à l'antique principe, le mosaïsme pour les juifs et la religion des patriarches pour les gentils. Et comme cette religion dont nos prophètes ont annoncé le triomphe pour les temps messianiques comme religion de l'humanité convertie au culte du vrai Dieu n'est autre que le noachisme, on peut continuer à l'appeler le christianisme, débarrassé toutefois de la Trinité et de l'incarnation, croyances qui sont contraires à l'Ancien Testament et peut-être même du Haut Nouveau.
Bon, on n'y est pas encore dans l'Église catholique
Jésus, pourvu qu'on ne lui attribue point la divinité, en faire un prophète, l'avenir de l'humanité, l'avenir du genre humain dans cette formule, il faut exclure le sacerdoce catholique. Et c'est réalisé. Nous allons parler donc du livre qui a été sorti. Et je suis navré, je suis de ceux qui pensent que le nouveau rituel du sacre des évêques est complètement invalide et que les évêques conciliaires ne sont pas évêques.
C'est votre opinion. C'est pas la réalité, la réalité.
Il faut venir au monothéisme, dit Thierry Libé Lamezel.
La foi, c'est les hommes.
Daniel, s'il te plaît. Je voudrais qu'on essaye d'avancer, parce que si chacun s'oppose de cette façon-là, on ne tirera pas cette affaire au clair. Ça paraît capital. C'est important de savoir où on va et où on est. On a la chance d'avoir les pieds posés sur quelque chose de solide. Alors maintenant, il faut savoir dans quelle direction on va marcher.
Mais
voilà.
Le rabbin Bodben, voilà. Je ne sais pas, mais tout le monde...
Non, c'est pas vrai. Parce qu'il parle de monothéisme. Ce qui est tout à fait frappant.
Tout son discours est autour du monothéisme. Et le monothéisme s'est évacué, donc deux personnes de la Sainte Trinité. Et le monothéisme, c'est le discours de Jean-Paul II.
Ou dans le discours officiel de l'Église, on exclut, enfin, faut pas
exagérer. La réalité, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on a l'impression de voir aujourd'hui, me semble-t-il, ce que j'entends quand j'entends parler des conciliaires, quand j'entends parler le pape, dans les circonstances qui étaient évoquées tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre parler, d'entendre ce que vient de dire Louis Bérémy. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est vraiment le chemin qu'on veut nous faire prendre? Je suis tranquille, moi j'ai absolument pas peur, je suis dans la tradition, je suis donc j'ai pas d'angoisse à ce propos. La seule question que je me pose, c'est quand les responsables de la fraternité acceptent de négocier ou de discuter ou de s'entretenir avec les conciliaires, dans quelle limite il situe cette négociation? C'est ça, c'est pour ça que je demande, je me tourne vers l'abbé Célier en lui disant...
Les limites, elles sont très claires. D'abord, je fais un petit aparté à propos des ordres. Je rappelle que le rite qui a été fait en 1968 par Dombot, qui était président de la commission du Concilium qui a fait les nouveaux rites, ce rite a été modifié, me semble-t-il, en 1990. Il a été remodifié et il a été réinséré des choses beaucoup plus claires sur la transmission du sacerdoce. Je pense que c'est un point important à signaler, que ce rite de l'ordination tant sacerdotale qu'épiscopale, qui a été fait en 1908, a été révisé de nouveau en 1990 pour...
Et que pensait alors pendant les 20 ans où il a été utilisé?
Non, la question n'est pas là, mais je signale ce point quand même qui n'est pas négligeable.
Je ne vous gentille pas de ne pas interrompre parce que il faut que chacun puisse développer son voilà. propos. Autrement.
Mais les limites dans lesquelles nous nous situons, ils sont très clairs, c'est ceux de la foi catholique. La foi catholique que nous voulons garder, bien sûr, la foi catholique que nous voulons prêcher, et y compris à ces hommes qui sont ces hommes de la hiérarchie qui sont pour une grande part dans des erreurs, et évidemment ils ne pourront pas connaître la vérité si on ne travaille pas à la leur donner autant que nous le pouvons.
La question, c'est est-ce qu'ils sont simplement dans l'ignorance ou dans le doute ou dans le vague, ou est-ce qu'ils sont réellement des adversaires? J'ai entendu il y a deux jours Béranger, évêque de Saint-Denis.
C'est mon évêque, je suis de là-bas.
Eh bien, vous vous en êtes bien tiré, parce qu'avec un évêque comme ça, c'est extraordinaire qu'on arrive encore à trouver des prêtres catholiques. J'ai entendu Lustiger hier. On a vraiment l'impression que ces gens-là sont des ennemis, mais déterminés, violent, irréductible de l'Église. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer d'un débat, d'une...
Oui, mais je pense que justement, ces hommes sont des gens imbus d'erreurs modernes, graves, c'est clair, on l'a toujours dit, Mgr Lefebvre l'a toujours dit, imbus d'erreurs graves, et donc, effectivement, en tant que tels, ils sont les adversaires de la vraie foi. Et ils le manifestent. Alors, bien entendu, dans leur discours, il faut bien entendu distinguer aussi ce qui a rapport à la politique, ce qui a rapport aux personnes. Par exemple, le cardinal Lustiger ne nous aime pas, je crois que c'est presque viscéral, il n'aime pas les traditionalistes. Mais bon, je dirais que ça, c'est anecdotique.
La question, c'est savoir qui il aime.
Voilà. Mais ça, je dirais, c'est anecdotique, ce n'est pas très important. Mais ce sont des hommes imbus d'erreur, et nous l'avons toujours dit. Donc, en ce sens-là, il faut les combattre, et il faut les éclairer. Les deux choses sont...
Est-ce qu'ils sont éclairables? C'est ça la question.
Mais ils sont éclairables. Attention, la position de Mgr Lefebvre a toujours été de dire qu'on ne peut pas trancher dans leur statut canonique, pour la bonne raison que seule l'Église le peut. Seule l'Église a pouvoir de trancher. Nous ne pouvons que juger des intentions intérieures, c'est-à-dire, c'est un jugement téméraire, parce que nous ne pouvons pas l'appréhender. L'Église a pouvoir, elle, de juger, de dire, vous êtes un hérétique, je vous excommunie, etc. Donc, nous n'avons pas ce pouvoir. Donc, nous allons nous comporter à l'égard de ces gens qui sont ce qu'ils sont. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas quelles sont leurs intentions internes, quels sont leurs positionnements. Nous allons nous comporter à leur égard comme ceux qui sont en charge de la hiérarchie, mais sans aucune concession à leurs erreurs. Voilà. Ensuite, c'est au bon Dieu de savoir. C'est pas nous qui dirigeons l'Église, c'est le bon Dieu qui la dirige, et donc il sait ce qu'il en est.
C'est l'Esprit Saint,
notre Seigneur. Donc,
vous savez, je vais pas vous apprendre. Enfin, moi, j'ai des phrases comme ça qui me viennent à chaque fois, qui sont vraiment des pierres blanches. C'est, on juge l'arbre à ses fruits. Or,
mais l'arbre de l'Église conciliaire, c'est un désastre.
Voilà.
Le fruit. Mais ça, c'est clair.
Mais
ça, nous sommes opposés de façon totale.
Je citerai un exemple. Depuis des années, on a supprimé les prières au bas de l'autel, on a supprimé l'exercice de Saint-Michel. Bon, moi je constate une chose. Moi, je suis un crétin. Je le dis. Alors là, je suis vraiment sans fausse modestie, un véritable crétin. Je pense que si l'Église, pendant des années, pendant des siècles et même des millénaires, ou en tout cas des siècles certainement, a prononcé l'exercice de Saint-Michel à la fin de la messe, c'est pour des raisons précises, parce que ça servait à quelque chose. C'est pas juste pour le plaisir que le curton dise l'exercice de Saint-Michel.
Bon. C'est pas pendant des siècles. Hein. C'est récent. C'est long 13.
Non, mais avant il disait autre chose. C'est pareil.
Oui, enfin, mais non. Mais non.
En tout cas, ça a marché pendant des siècles. Ou pendant des années, d'un seul coup on a supprimé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, notre pays, notre Église est dans le fin fond de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la vérité. On voit bien que tout va mal, tout va de travers. Plus personne ne croit rien, tout le monde doute. On a une jeunesse qui est égarée, on a une vieillesse qui est épouvantée.
Je ne suis pas d'accord.
Et c'est pas nous
vous
qui
ne voyez qu'un aspect négatif. Attends. Il y a un aspect négatif. Non, c'est énorme. La crise est énorme, elle est considérable. Mais il y a des jeunes pousses, entre guillemets.
Oui, mais ça, c'est du wishful thinking. Moi, je vois les choses comme elles se passent. Il se trouve que par mon métier, je rencontre des gens tout le temps. Et je rencontre des gens qui sont des gens simples, qui sont des gens de cultivés. Et quand je veux dire des gens simples, c'est pas des crétins, mais des gens qui sont comme moi, des gens qui tout simplement croient que Dieu est Dieu, nom de Dieu, que Jésus-Christ est son Fils, mort et ressuscité pour nous sauver. Voilà, des choses simples comme ça. Et qui me regardent et que la Providence est là. Bon, et qui me disent, alors qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qui se passe et tout. Et je crois, comme un imbécile et comme un crétin, je crois réellement que un des motifs de la situation dans laquelle on est, c'est qu'on a supprimé les prières au bas de l'autel et l'exercice de Saint-Michel. Tu diras ce que tu voudras, mais je crois ça. Quand tu dis ça à des curés aujourd'hui conciliaires, ils éclatent de rire. Eh bien, moi, je suis désolé, ces gens-là, je ne peux pas leur faire confiance.
Il n'y a pas que des curés conciliaires. D'abord, il ne faut pas dire l'Église conciliaire et l'Église. Ça n'a pas de sens. Il y a l'Église. Moi, je confesse l'Église, une catholique, apostolique et romaine.
Mais elle n'est pas à Rome, enfin. Ouvrez les yeux.
Apostolique et romaine. Voilà.
Mais ça, c'est toi qui le dis. Mais va le dire à Lustiger.
Je ne suis pas le seul.
Va dire à Lustiger.
J'ai notion de bien à la messe.
Le cardinal archevêque de Paris, il a été licitement ordonné, il n'y a pas de doute. Et puis, il a des opinions. Les opinions, il peut les exprimer comme
ce n'est pas catholique. L'Église ne peut ni se tromper ni nous tromper.
Ce n'est pas le cardinal Lustiger.
L'Église ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est pas possible.
Vous réduisez le tout à la partie.
C'est pas nous qui posons problème, quoi. Donc nous ne bougeons plus.
Enfin, moi,
faisons ce qui a toujours été cru et fait.
Être conciliaire, je ne sais pas ce que c'est. L'Église conciliaire, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est.
Je voudrais dire deux choses.
Attendez, avant Louis Bérémy, si vous permettez, je voudrais pas d'abord qu'on croie que il y a un déséquilibre de la parole, parce que l'abbé Cellier garde de Conrad le silence prudent, ou en tout cas de l'abbé Cellier le silence prudent.
Ils sont en négociation, il ne faut pas déraper, vous êtes en négociation là.
Je suis là pour dire la position de la fraternité, possible de la foi. Si on me la demande.
Je suis légat de la marine plutôt, non. Pardon. Est-ce qu'on peut donner la parole aux auditeurs, si vous en êtes d'accord, pour quelques minutes, parce que je vois que les messages s'accumulent.
Alors, pourriez-vous nous dire clairement où en sont les pourparlers? On entend beaucoup de commentaires, mais l'information précise manque.
Oui. On conclura comme ça, si vous voulez, monsieur l'abbé. À la fin, vous nous direz où ça en est. Parce que...
L'épiscopat français est-il intervenu dans les préalables des discussions entre le Vatican et la France et Écône?
Ça rejoint la première question.
Quelle est la date du message de Mgr Lefebvre qui a été lu par monsieur Rémy?
Un jour avant son décès, non?
C'est le 4 mars 1991.
4 mars 1991, la lettre. Et le texte de nos relations avec Rome, c'est une conférence qui a été faite à Écône par Mgr Lefebvre le 4 septembre 1987.
C'est plus ancien.
À Écône.
Plus ancien.
Luc 22, 31-32. Le Christ dit à Pierre, « J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. » Et il est dit ailleurs que le Saint-Esprit serait toujours dans l'Église, donc au Concile.
Ben oui, l'Église est éclipsée, c'est clair.
C'est un message pour vous. Monsieur le CDVAC,
Vous poussez le bouchon un peu loin. Vous voulez réaliser une captation d'héritage de Mgr Lefebvre. Vous ne manquez pas d'estomac. Le sel de la terre, contrairement à ce que vous insinuez, est très proche de la fraternité et condamne les thèses que vous défendez à tort.
C'est exact,
pour,
oui. J'aimerais y répondre.
Vous notez pour répondre à la fin ? Enfin, vous voyez, bon. Pour M. l'abbé Cellier, quel est le retentissement ou l'importance de la messe traditionnaliste dans les autres pays européens catholiques ?
Vous pouvez dire ça en quelques minutes ?
Oui, il y a des pays où ça marche, disons, où ça se diffuse très bien. La France, hein, qui est le premier pays dans le monde, l'Allemagne, la Suisse, et d'autres pays où c'est plus difficile. L'Italie, quoi, que ça commence à se développer.
Parce
l'Espagne.
Que l'Italie, quand même, même les conciliaires, si j'ose dire, restent très très près, voilà. Apparemment, en voilà. Dans les apparences.
Donc l'Italie, l'Espagne a plus de difficultés. Et ce qui se développe actuellement, ceux pour lesquels nous avons des missions qui sont très actives, c'est l'Europe de l'Est qui s'est ouverte depuis la chute du mur de Berlin. Et puis bon, ça c'est en Europe, hein, aux USA, donc il y a beaucoup beaucoup de messes, hein, puisqu'il y a la messe traditionnelle célébrée dans plus de 100 diocèses, alors la messe traditionnelle avec autorisation, donc plus de 100 diocèses, alors que la Fraternité Saint-Pierre n'est que dans 30 diocèses, donc plus bien sûr la Fraternité Saint-Pédis, etc., etc.
Un auditeur, je suis horrifié d'entendre parler de notre Saint-Père comme vos deux invités en parlent. Une auditrice.
C'est n'importe quoi, voilà. On a parlé.
Moi, je suis horrifié aussi d'être obligé de dire ça de ce qu'on appelle le Saint-Père. Parce que pour moi, un pape, le vicaire de Jésus-Christ, devrait être inattaquable. Et si nous sommes obligés d'attaquer, c'est parce que justement, on y trouve énormément de choses qui ne sont pas compatibles avec la foi. Faut quand même s'en rendre compte.
En plus, ça témoigne. Ce genre de réflexion témoigne. Il y a d'autres messages du même genre que j'ai reçus avant, qui témoignent, à mon avis, d'une déviation grave de la foi catholique, qui est la papolatrie. Le pape, c'est pas le bon Dieu.
Et vous allez voir le successeur. Et on verra le successeur. Si c'était Casper, par exemple, qui ne croit ni à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nouveau cardinal, qui ne croit ni à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ni à l'historicité de notre Seigneur Jésus-Christ. Cardinal de la Sainte Église, soyons sérieux.
Monsieur l'abbé Cellier, qui est un homme de nuance et d'intelligence, se pourvoit en compagnie d'un inquisiteur sectaire. Qu'est-ce que j'ai dit ?
Pourvoit, c'est pas grave.
Non, je voulais dire fourvoie. Hein. En compagnie d'un inquisiteur sectaire. Ces imprécations ne feront rien pour la cause et on s'interroge sur l'autorité morale dont il se prévaut.
Mais pour l'instant, l'inquisiteur sectaire, je suis obligé de prendre sa défense parce que je connais Louis-Rémy, on n'est pas d'accord sur tout, ils en foutent beaucoup, mais que l'inquisiteur sectaire, ça me paraît un portrait un peu rapide. Ce que je voudrais dire, c'est que pour l'instant, dans ses propos, il s'est pratiquement borné à lire des textes.
Oui,
alors,
c'est un petit peu autre chose, quand même. On parle autre nom propre.
Autre chose, il y a plus de prêtres sédévacantistes actuellement que de prêtres qui disent la bonne messe, que le prêtre de la Fraternité Saint-Pédis.
Monsieur Rémy cultive avec délectation la désespérance. Est-ce bien raisonnable et surtout est-ce bien catholique ? Monsieur Rémy oublie que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église.
Je suis convaincu que l'Église est éclipsée et donc l'Église existe, bien sûr.
Dostoïevski a écrit « Entre la vérité et Jésus-Christ, je choisis Jésus-Christ ». Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de charité dans vos propos. À Montmartre, il règne là. Ferveur, ainsi que la charité, et c'est ce qui compte le plus.
La charité, je pense que c'est le genre de reproche qu'on pouvait faire à Jésus-Christ à la sortie du temple, quand les marchands devaient dire, effectivement, il n'y a pas beaucoup de charité dans les coups de pied au cul que vous nous avez mis, monsieur.
Lire chapitre 7 et 8 de Saint Jean,
Moi, je ne fais pas. Je comprends ce que veut dire l'auteur.
Priez plus, parlez moins.
N'ayez pas peur.
À l'invité qui parle du Christ roi, enfin quelqu'un qui a les yeux ouverts. Une auditrice, comment pouvez-vous reconnaître le pape comme pape alors qu'aucun pape ne peut manquer à l'infaillibilité pour être élu ? Comme il ne garde pas le dépôt de la foi, il n'est pas pape. Bon. Il est vrai que la franc-maçonnerie, malheureusement, est au Vatican. Il faut distinguer le Saint-Père et les prélats qui l'entourent. Puisque nous avons des personnes qui vont parler religion, que pensez-vous de la énième repentance du pape aux responsables de l'Église orthodoxe en Grèce ? Que pensez-vous également de la visite du pape à la mosquée ? Les orthodoxes disent que Jean-Paul II est l'antéchrist. Malgré tout, certains actes de ce pape sont respectables, que les véritables chrétiens ne soient pas leurrés, car il semble que ces actes tendraient à masquer la véritable personnalité de cet homme dont il faut le rappeler... qui, il faut le rappeler, fut un évêque franc-maçon en Pologne. Qu'en pensez-vous ?
On n'a aucune preuve de ça.
J'apporte mon soutien à M. Amiche.
Et je trouve lamentable que...
C'est une dame, j'espère, non ?
C'est un monsieur. Oh, et je trouve lamentable
que... Tu mélanges tout, vraiment.
Que les traditionnalistes soient plus enclins à fonctionner avec des automatismes plutôt qu'avec leur intelligence. Ce qui nous intéresse, c'est le débat entre l'abbé Cellier et monsieur le CD vacantiste. Bon. L'opinion du conciliaire Ali nous indiffère totalement et n'apporte aucun intérêt au débat.
Bon, mais je t'ai compris. Oui,
monsieur, la rage avec, pour monsieur Rémy, la rage avec laquelle vous parlez trahit un non-catholique. Sous l'apparence de l'orthodoxie, c'est un hérésiaque qui parle, laissez parler l'abbé Cellier. Mais il parle, il parle. Heureusement que l'évangile nous donne des éléments plus humain est plus simple que cette discussion et qu'il débarrasse les religions de tout un fatras qui a été condamné par Jésus-Christ lui-même quand il s'en prenait aux scribes et aux pharisiens. Pour M. Rémy, vous avez raison, mais vous ne considérez qu'une partie du problème, la théorie, et vous omettez la pratique. Alors, M. Amiche, acceptez que l'on vous ouvre les yeux pour ce qui se passe actuellement. Allez donc visiter cette nouvelle église de l'Alliance rue d'Avray dans le 15e et vous comprendrez tout. Pour quelle paroisse prêchez-vous ? Vous avez fait une erreur que je relève. La reconnaissance des autres religions par le pape Paul VI et surtout l'islam fut publiée par l'Osservatore Romano le 26 octobre 1974. L'islam reconnaît le pape comme chef des catholiques et non des chrétiens et ne reconnaît aucune légitimité papale concernant l'islam, à moins que le pape se convertisse à l'islam. Aucun musulman ne reconnaît le pape comme chef religieux de toutes les religions. Le pape possif Paul VI a déjà fait repentance devant les imams pour les crimes commis pendant les croisades. Voilà, c'est tout pour le moment.
Bien, alors, monsieur l'abbé Cellier, un commentaire, une déclaration, une...
Sur quoi ?
Non, je ne sais pas, sur ce qui vient d'être dit, sur la suite du débat, sur...
Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais je pense qu'effectivement, la question tout à fait fondamentale, c'est effectivement, Rome est-elle dans Rome ? Eh bien, on en revient à ce point-là. C'est justement là la crise telle que nous la vivons, qui n'est pas la crise du XVIe siècle, qui n'est pas la crise arienne, qui est une crise particulière, que Jean Madiran a appelé ça l'apostasie immanente. C'est quelque chose d'intéressant comme concept, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs toutes sans sortir de l'Église, sans sortir des frontières de l'Église visible. Et c'est le grand problème. Et Mgr Lefebvre, qui a les textes que M. Rémy nous a lus, on pourrait en citer, il en cite très souvent beaucoup d'autres, peut-être un petit peu en charcutant les textes, en coupant un petit peu, mais
je
bon.
Je cite intégralement, ajouté ou supprimé.
En ne citant peut-être pas tous les textes qui permettent de voir l'équilibre d'ensemble de la pensée de Mgr Lefebvre, Mgr Lefebvre a certainement réfléchi, hésité, s'est posé des questions face à cette crise très, très difficile, mais il a toujours il est arrivé, disons, à une explication qui, je pense, est assez intéressante, bien qu'elle ne soit pas la dernière explication possible. Cette explication, on la saura peut-être dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. C'est une crise tellement grave que ça mettra du temps à la comprendre et à la faire arrêter et puis à la comprendre pleinement, que les théologiens nous l'expliquent. Mais Mgr Lefebvre disait Paul VI, il parlait de Paul VI à l'époque, est un libéral, c'est-à-dire quelqu'un qui est intrinsèquement contradictoire. Et c'est quelque chose de tout à fait vrai, y compris, si vous avez lu les biographies de Paul VI, par exemple celle faite par M. Chiron, qui montre assez bien le tempérament de Paul VI. Paul VI était un homme qui aimait, c'est ça qui est extraordinaire, qui aimait la liturgie traditionnelle. C'est le plus grand destructeur de la liturgie traditionnelle, et c'est un homme qui aimait bien les bénédictins, qui aimait bien Solesmes, qui aimait bien... Donc c'est un homme qui était contradictoire. Il avait en lui ses attirances vers l'erreur, et bien, sa participation à l'erreur, et en même temps, cet attachement à certaines vérités, et qui, je pense, est une explication. Et les hommes que nous avons en face de nous sont tels. C'est-à-dire, ils sont partagés, déchirés. La crise passe à l'intérieur des esprits et des cœurs. Car si on pense que la crise n'est pas telle, à ce moment-là, c'est très simple. Il y a d'un côté les mauvais, de côté les bons. Mais ça n'est pas la crise d'aujourd'hui. La crise d'aujourd'hui, c'est une crise où la ligne de fracture passe à l'intérieur des cœurs. Avec des gens dont certains sont de très bonne foi, dont certains sont des méchants, c'est clair. Certains sont des destructeurs de l'Église, mais nous ne savons pas lesquels, d'abord. On ne voit pas les cœurs. Et d'autres, certainement, sont perdus. Et puis, les choses évoluent. Les choses évoluent. Le temps fait changer les choses, parce que, heureusement. Mais, donc, les hommes qui ont été impliqués dans la persécution contre la fraternité, contre la tradition, ne sont plus forcément en place. Les hommes nouveaux, ils ne comprennent pas tout, ils ne voient pas tout. Il faut essayer de prendre en compte cette réalité complexe, mais encore une fois, cette crise ne peut se poser que si on admet que la ligne de partage, elle est dans les âmes de ceux qui sont nos interlocuteurs, parce que sinon, je dirais, on n'est pas dans la compréhension de la crise d'aujourd'hui. On est la crise arienne ou la crise protestante, mais on n'est pas dans la crise d'aujourd'hui, qui est une crise dans laquelle les hommes d'église et les fidèles, les prêtres, les évêques, sont partagés.
C'est un peu moi, l'impression que j'éprouve en vous entendant, et qui est une impression que j'éprouve toujours quand j'entends parler des gens d'église et des gens de l'église, c'est que en fait on a un affrontement de gens qui sont de bonne foi, et c'est ce qui est insupportable, c'est de...
Non, la bonne foi, pas
systématiquement, mais on a l'impression que tout le monde veut le bien de l'Église, tout le monde veut la réalisation du bien sur la terre, si j'ose dire. Ça, c'est un peu caricatural, je veux dire. Mais que chacun a son petit chemin, chacun dit c'est peut-être par là, puis on peut peut-être s'arranger avec ci, avec ça. Et alors, tranchant sur cette espèce de bonne volonté générale, de masse due, encore une fois, de mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle, il y a des gens comme le Hubert Rémy qui disent, attendez, les enfants, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a le vrai et le faux. Il y a ça, c'est
bien sûr. J'aimerais pouvoir parler quand même. Je suis venu, vous parlez souvent à la radio. J'ai pas souvent l'occasion. J'avais des tas de documents, bien sûr. J'aurais pu parler pendant 3 heures. Bon, si les gens s'y intéressent, ils n'ont qu'à commander, mais un certain nombre de choses aux Amis du Christ au Roi de France, hein, boîte postale 2, 44 140, Aigrefeuille. Mais que vous Vous, comme disait Mgr de Castromeyer, les laïcs peuvent être trompés, mais les clercs se trompent difficilement sans être de mauvaise foi, surtout si cela dure longtemps. Et je pense que cette chose qui est arrivée à l'église conciliaire, c'est le fruit d'un complot. On le retrouve aussi bien au XVIe siècle, hein, avec la réalité du projet de Bourgfontaine démontré par son exécution, expliquée par Fillot. On le retrouve dans le véritable auteur de la Révolution française, quoi, où il y a Vatican II à chacun de ces deux livres, de siècle en siècle. On le retrouve dans Glorieux Centenaire du 189 du Chanoine Roca, où là il y a encore Vatican II. Et tout ça, donc, il est expliqué. Ce qu'il y a, on sait très bien, notre Seigneur, je sais, vous, monsieur l'abbé, vous ne croyez pas à la thèse du complot. Moi, je crois deux étendards. Je crois terriblement à la thèse du complot parce que tout le prouve, hein, à longueur de temps. Et donc, cette thèse du complot, c'est le conflit continuel entre Satan et notre Seigneur. Et là, donc, Satan a demandé en 1883 que l'Église soit détruite, c'est l'origine de l'exorcisme de Léon XIII, et puis le bon Dieu, par une juste justice, a vomi les tièdes. Parce que le problème, demain, nous aurons le règne du Sacré-Cœur. Nous l'attendons, c'est promis, c'est quelque chose de sûr. C'est quelque chose qui arrivera. Mais pour ce règne du Sacré-Cœur, le bon Dieu veut des vrais chrétiens. Et si on a pris cette position dure, où il y a des quantités de prêtres qui sont ces vacances, vous avez des quantités de prêtres, y compris dans la fraternité qui ne cite pas Jean-Paul II au canon de la messe. Enfin, des quantités, il y en a quelques-uns. Bien, c'est qu'on est arrivé à une réflexion qui montre l'illogisme. La vérité, c'est pas... elle est connue, elle n'est pas inventée. Quand nous, on dit quelque chose, on croit et on fait ce qui a toujours été cru. Effet, c'est pas nous qui posons problème, c'est la nouveauté qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est justement, c'est pour parler avec des gens qui sont des destructeurs. Cette église, elle est pratiquement morte. Il n'y a plus de vocation, il n'y a plus de religieux, il n'y a plus de religieuses, il n'y a plus de foi. Ils ont changé tous les sacrements. Vous comprenez, on n'a pas parlé du livre, hein, qui était sorti sur le problème.
Pardonnez-moi de vous interrompre une seconde. Il y a une chose quand même qui me paraît étrange, c'est que au fond, je comprends pas très bien ce que vous reprochez aux prêtres et aux évêques de la fraternité qui ont accepté d'avoir des entretiens avec les conciliaires, parce que toute proportion gardée, oui, et toutes choses égales par ailleurs, comme on, oui, dit, c'est un peu comme, je sais que je vais choquer en disant ça, mais tant pis, je le dis quand même. C'est un peu comme le maréchal Pétain qui dit, bon, les Allemands sont là, il faut discuter avec eux.
Bon, mais c'est pas...
On peut pas engueuler le maréchal Pétain parce qu'il discute avec les Allemands. Ils sont là, les Allemands, il faut bien discuter. Donc les conciliaires, ils sont au pouvoir dans l'Église. Si on veut que la tradition continue à vivre un petit peu et continue à être irriguée un petit peu, il faut bien considérer qu'il y a une discussion.
Parce que vous pensez que les pourparlers vont arranger quelque chose pour la tradition?
Quand on voit, j'ai écrit le contraire dans dans le journal.
Bien sûr.
J'ai dit, à mon avis, c'est un piège.
Le jour ici, ils sont
je crois que Mgr Fellay n'y tombera pas. Crois que la meilleure façon qu'il a de ne pas y tomber, il l'a déjà choisi, ça a été de poser ce préalable absolu, de dire, tant que vous n'aurez pas admis que la messe traditionnelle est valide et elle est légale, et il n'y a pas besoin de l'autorisation des évêques pour la dire, eh bien, ces discussions n'auront absolument aucun objet. Bon, ça, c'est une façon très claire de mettre les choses au point. Est-ce que je comprends pas, c'est où se situe votre opposition?
Mon opposition, par exemple, par cette condition, moi, j'ai 8 remarques et 6 questions à poser. Ça ne mériterait un débat. La question, quand même, est-ce que ces prêtres à qui vous demandez de dire la nouvelle messe, parce que, attention, quand on parle de la nouvelle messe, ils étudient le texte de Paul VI, mais personne ne l'a dit, cette messe-là. Il y a 400 000 prêtres, il y a 400 000 messes aujourd'hui. De l'un à l'autre, c'est complètement différent.
Mais
vous demandez donc de faire dire la messe de toujours, la messe éternelle, donc à des gens qui ne sont peut-être pas prêtres. Parce que donc, on a dit qu'on a rectifié le rite du sacre des évêques. Mais il y a aussi le problème du rite des ordinations. Il faut voir ce qu'est une ordination aujourd'hui. Ils vont parler, ils vont faire leurs études théologiques sur des textes imprimés.
Supplète, parce que autrement, on n'en sort jamais.
Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez? Et quelle est l'intention de tous ces gens conciliaires de cette église, de cette secte conciliaire qui n'est pas l'église catholique? C'est pas possible. Bon, quelle est l'intention de ces gens, d'avoir changé tout changé? Il y a 2 intentions. Il y a changer, mais surtout détruire l'autre. Et donc, il n'y a plus rien de l'autre. Et c'est pas nous qui posons problème.
Non, mais
c'est
nous.
La nouveauté.
On demande
de dire la messe éternelle à des gens qui ne sont pas prêtres. À des gens où, c'était une des choses essentielles de la religion conciliaire, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de pécheur, il n'y a plus de confession. Tout le monde a son salut éternel. C'est pas ça. Alors que l'Église nous enseigne que justement, il faut dire la messe et communier à la messe avec une âme très prêtre et très prête et très, très purifiée, pour ne pas manger le mystère d'iniquité.
Vous savez, j'interviens encore parce que, vous savez qui me faites penser?
Oui.
Je vais encore me faire des amis. Vous me faites penser à, je ne veux pas dire de nom parce que ça va être encore pire, à certains dirigeants politiques aujourd'hui qui considèrent que leur pire ennemi, son pire ennemi, c'est celui qui leur ressemble le plus.
Ah mais attendez, non, le pire ennemi pour moi c'est l'église, la secte conciliaire, mais pour eux, le pire ennemi c'est moi, pour la fraternité. La fraternité n'attaque que les cédévacantistes. On sait ce que c'est. Quand l'abbé de Tannoir a écrit ces crétins de cédévacantistes dans le Mascaré, on a enregistré. Mais il y a quand même quelque chose. Quand on prend le livre de l'abbé Ollagnier, où dans le chapitre 10, il parle de nouvelle religion. Bon, une nouvelle religion. Bien. Et donc, jamais il n'explique. Comment se fait-il que l'église de Jésus-Christ soit effondrée, qu'on ait monté tout ce système? C'est la faute à pas de chance, c'est des théologiens qui n'ont pas compris, etc. Enfin, alors qu'on a lu la lettre de Monseigneur, mais on se moque de qui, là? Enfin, tout est démoli, tout est détruit, plus personne à la foi. On a monté une société multiraciale, multireligieuse, donc, où tout le monde, actuellement, sait qu'on vit sur des charbons ardents, et qu'un jour, on va partir de... Mais tout ça vient de quoi? D'une escroquerie. C'est que on est passé de « je suis la voie, la vérité et la vie », et de l'enseignement, donc, de la vérité qui rend libre, on est passé à la liberté où on pense pouvoir amener à la vérité. Et donc, on se trouve devant une impasse absolument colossale, puisque maintenant, c'est l'erreur qui est enseignée partout. On ne trouve pas un texte à reprendre, et y compris, même maintenant, on commence à trouver des textes de la fraternité où il y a des choses à redire. On est très très loin du discours de Mgr Lefebvre. Je ne veux pas du tout récupérer Mgr Lefebvre, mais je l'ai suivi. Et j'ai suivi son combat pendant... ma génération est celle qui a construit la tradition. J'étais personnellement très très impliqué là-dedans. Et je vois cette dérive avec la seconde génération, dont l'abbé Delagneau a bien expliqué qu'elle n'est pas convertie. Il n'y a qu'à lire la lettre de l'abbé Delagneau, et nous le savons très bien, tous ces jeunes. Alors, l'abbé Delagneau, c'est celui donc qui écrit la revue Marchand Droit et qui dirige les exercices de Saint-Ignace au Pointé. Et donc, dans un de ses derniers articles, il a bien précisé que la seconde génération n'est pas convertie, et je le pense profondément. Ils sont incapables de rendre compte de leur foi. Nous, si nous étudions, nous travaillons, nous faisons ces choix, mais c'est parce que nous disons, il y a un problème. Bon, j'aurais voulu vous parler de 2 livres importants, le remarquable et important Figure d'Israël de Daniel Lindenberg, aux éditions Hachette, Forum. Bon, j'aurais voulu vous parler d'un autre livre, paru aux éditions Salvator, l'antijudaïsme chrétien, la mutation de Paul Gignevski. J'avais des tas de choses à dire, parce que ce qui est important, c'est que dans la civilisation chrétienne, tout est un. On est un avec notre Seigneur. Le Unium qui est répété quatre fois dans le credo. Bon, avec cette civilisation a été démolie et détruite, y compris, bon, étaient un, les rois, les papes, les empereurs, la hiérarchie, les élites, etc. Tout le monde pensait pareil. Et tout ça, ça a été détruit par quelque chose qui est un phénomène qui n'est pas du tout étudié par la fraternité, sauf quand même par Mgr de Galarreta, qui connaît très bien la Kabbale et tout, hein, qui en parle, et un certain nombre d'autres écrits.
C'est le diabolos. Bien sûr.
Comment?
C'est le diviseur.
Le diviseur, etc. Où là, on est dans la civilisation marane. C'est la chose clé, la civilisation marane, qui se résume dans une phrase très simple de Paul Gineski, de Daniel Lidenberg, « Sois juif chez toi et autre chose ailleurs ». Et là, nous rentrons avec ces pourparlers dans la civilisation marane. Sois catholique et en même temps conciliaire. C'est impossible. Ce sont deux religions impossibles qui se combattent à mort. On l'a bien vu, la religion, le cardinal Aix qui l'a écrit. Hein, au moment où on parlait des pourparlers, on l'a bien vu, ce qu'un certain nombre de cardinaux, oui, comme Casper, mais c'est quand même clair. Pardon. Alors on est parti dans un mensonge et on est parti donc dans d'une rêverie, on dirait une affaire de Boy Scout.
En tout cas,
nous sommes dans quelque chose de dramatique.
Vous avez vu quel cardinal est, et c'est vrai qu'il a appelé de tous ses voeux l'échec des entretiens, des conversations, et là on voit très bien qu'il y a une volonté mauvaise, on peut employer ce terme, de la part de certains prélats de conciliaires qui sentent bien qu'il y a un danger, malgré tout.
Mais des deux côtés, Serge, il y en a qui ne veulent pas la réconciliation, il faut quand même être objectif. Enfin, encore une fois, je ne veux pas apparaître comme une espèce d'homme d'équilibre dans ce débat qui, pour moi, est un peu surréaliste, parce que, écoutez, M. Rémy, pour lequel je n'ai que de la sympathie, je l'aime beaucoup et je prierai beaucoup pour lui, je suis prêt à discuter avec lui pendant des heures et des heures.
Priez donc là pour
nous. Nous demandons la discussion, nous l'avons toujours demandé, nous l'avons jamais obtenu.
C'est passionnant, mais enfin bon, il ne faut pas qu'il nous balance comme ça des noms de personnes que personne ne connaît dans l'église catholique.
Oui, que les gens qui travaillent connaissent.
Alors, moi, si on l'écoute, à vous écouter, mon cher monsieur Rémy, il y a le pape est pas bon, les évêques sont pas bons, les prêtres sont pas bons, il n'y a plus de foi. Bon, non, alors, il est 7h35, c'est la parousie.
Non,
il est 25.
L'église est éclipsée, et le problème d'une éclipse, c'est de ne pas durer. Une éclipse, ça s'arrête. Mais dans la seconde qui vient, quand l'autre astre va disparaître, la lumière va revenir. C'est ce qui est annoncé dans toutes les prophéties.
Enfin, alors,
tout est perdu, tout est sauvé.
Excusez-moi, il reste 4 minutes, mais il ne reste pas 4 minutes pour discuter de ça. Il reste 4 minutes pour que l'abbé Cellier, réponde. Non, mais après, vous aurez la parole, Victoria. Les auditeurs auront la parole.
Je veux dire que la notion d'église éclipsée, qui est une notion qui est relativement juste dans la mesure où on dit que l'église est en crise, si ça veut signifier que l'église est en crise, j'en suis d'accord. Si on veut dire que le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les fidèles sont tous hors de l'église, ne sont plus prêtres, etc., moi je dis la visibilité de l'église est gravement atteinte, évidemment, la visibilité de l'église. Et si on dit, oui, voilà, le bon Dieu va intervenir, c'est son apostolicité. L'apostolicité, ça signifie que l'église est une continuation physique depuis notre Seigneur Jésus-Christ. Dire qu'il n'y a plus de pape, plus d'évêque, plus de cardinaux, plus de prêtres, c'est tout simple.
J'ai répondu dans un long article à la visibilité de l'église, et j'explique exactement ce qu'il en est. La visibilité de l'église est fondée sur trois choses, le dôme, les sacrements, la hiérarchie. Bien. Est-ce que vous avez le dôme? Est-ce que vous avez les sacrements? On ramenait ça d'une façon, par une formule très courte, là où il est le pape, là est l'église. Parce qu'avec le pape, il y avait le même dôme, les mêmes sacrements, jusqu'à la mort de Pie XII, et la même hiérarchie. Mais au jour d'aujourd'hui, pour dire que l'église est avec la hiérarchie, mais vous vous trompez, vous n'avez ni les dômes ni les sacrements. Alors lisez les articles que j'écris, je suis on va très vite, j'ai déjà de choses à dire.
Laissez la Vaisselier s'exprimer, je ne vous coupe pas la parole, mais je ne voudrais pas qu'on s'accroche.
Oui, je pense que c'est effectivement une situation grave. Mais je dirais trancher comme ça et dire bon, à ce moment-là, y a plus, je dirais l'Église hiérarchique. Parce que si demain, s'il y a plus, s'il y a ni évêque, ni cardinaux, ni pape, ni prêtre, demain s'il y a un renouveau, d'où viendront ces cardinaux et ces évêques?
C'est prophétisé par Catherine Emmerich la vénérable Anna Maria Tegui, et la vénérable.
Moi, les apparitions privées, ce n'est pas la base de la foi catholique.
Je préfère suivre le cardinal Pie qui dit à chaque chose, chaque événement a toujours été prophétisé.
Non, moi je crois.
Et il s'appuie sur le prophète Amos pour expliquer.
Ah oui, le prophète Amos, ça c'est la révélation publique de notre Seigneur.
Et le cardinal Pie a fait tout un texte là-dessus.
Est-ce que vous pouvez. Bon,
excusez-moi. Un message. Le plus rigolo, c'est que chacun à sa façon a raison. Je vous aime tous, nous dit cet auditeur, même monsieur Amish. Cette émission est tellement superbe que c'est presque un miracle.
sur quelle autre radio du monde pourrait-on entendre parler ainsi?
Alors, attendez, une autre
toute petite. La meilleure façon de savoir où en sont les pourparlers, c'est de s'abonner à la revue Fidélitaire. Inutile de discuter plus longtemps. Pouvez-vous nous donner la... dresse de Fidélitaire.
Alors attendez, avant je voudrais dire une chose. Est-ce que vous acceptez qu'on reprenne cette conversation plus tard, dans quelques semaines, le temps
tout
que
tout à fait. Sur les pourparlers, j'ai beaucoup de choses à dire.
Parce que ce que je voudrais dire aux auditeurs, c'est que en une minute, c'est que ne croyez surtout pas, évidemment, ne croyez surtout pas que l'objectif de ce genre de mission soit de porter atteinte à la tunique du Christ, qui est déjà, à mon avis, bien souillée, faute d'être déchirée. Pas mal taché. On essaye de faire jaillir la vérité. Et surtout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'essaie à tout prix de faire comprendre, à ma modeste place, au patron de l'Église de France, qu'on est plus que malade, plus que épouvanté et attristé par leur perpétuelle trahison, leur perpétuelle absence quand on a besoin d'eux et tout. Et qu'on va les réveiller s'il le faut à coup de pompe dans le derche, parce que c'est plus possible d'entendre
Va s'en occuper.
J'espère que le bon Dieu, il fera ça certainement mieux que moi, nos évêques nous trahir, nous mentir, nous abandonner et tout. Et ce genre d'émission a pour but de leur dire, nous, il y a toujours une église vivante, il y a toujours des fidèles qui y croient et qui ont envie de se battre. Voilà, je reprends la parole dans 2 minutes après la coupure technique.
Le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 10 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ce soir, le débat est fort intéressant mais trop passionné, nous dit un auditeur qui s'avoue lui-même octogénaire. Bon, tout péché miséricorde. Un peu de sagesse, s'il vous plaît, dit-il. Je fus impulsif, moi aussi, mais je pense que la raison doit toujours primer sur l'excitation avec toute ma sympathie. Alors, si le débat est intéressant, c'est peut-être parce qu'il est passionné aussi. C'est ça, on a tellement l'habitude aujourd'hui du politiquement correct, du religieusement correct, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, que quand on se frite bien vigoureusement, on a toujours l'impression que c'est trop passionné. En tout cas, on a j'ai eu ce soir des invités qui étaient des gens qui avaient des choses à dire, qui les ont dit d'une façon vigoureuse, plus ou moins vigoureuse. D'ailleurs, j'ai constaté que Monsieur l'abbé Cellier, vous étiez vraiment... Je me demande finalement si votre robe est une armure ou un carcan par moment, voyez ? Je sentais qu'il y avait des moments où ça bouillonnait, tandis que Louis Bérémy, lui, dans son costume trois pièces, il est très libre finalement. Mais j'aimerais bien qu'on renouvelle cette expérience, si vous le voulez, si vous en êtes d'accord tous les deux.
Oui, pas de problème.
Je voudrais vous poser une question et vous demander de répondre par oui ou par non. Je connais la réponse d'avance. Est-ce que l'un et l'autre... Vous avez l'impression qu'il peut naître quelque chose de positif de votre discussion ?
Ah ben moi, certainement, puisque l'invitation à l'émission fait que je suis en train de travailler sur une petite brochure sur la question du célibacantisme. Je pense que ce sera très positif.
Est-ce que je peux demander...
Tout à fait. Eh bien, on en parlera avec plaisir.
Est-ce que je peux demander pour un auditeur qui souffre, pouvez-vous nous donner une explication sur ce que l'on entend exactement par ces dévacantistes.
Mais il doit souffrir beaucoup parce
que
ça fait quand même une heure et demie.
Depuis le début de l'émission, il souffre, mais bon.
Surtout qu'en plus, c'est une étiquette qui nous a été mise sur le dos et qu'on refuse et qu'on regrette.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que le siège est vacant, que le pape n'est pas pape. Hein. Mais c'est un peu malheureux parce que moi, je ne dis, c'est pas le problème du tout. Le problème, c'est toute la secte conciliaire qui n'est pas l'Église catholique.
Alors, on ne va pas rouvrir le débat, on l'ouvrira dans une autre émission. Je vous réinvite tous les deux, si vous le voulez, et je vous remercie de l'accepter. Si on veut approfondir avant la prochaine émission ce qui a été dit ce soir, si on veut retrouver les textes, etc., et les références que vous avez évoquées tous les deux, on peut s'adresser d'une part, alors Louis-Bert Rémy...
Alors, à ACRF, boîte postale 2... 40 140 Aigrefeuille. Et j'enverrai à ceux qu'ils veulent, pour 120 francs, 8 petites plaquettes, des cahiers, où sont proposées un certain nombre de choses qui me paraissent importantes. Nous avons sorti déjà 4 numéros de notre bulletin pour 100 francs, parce que ces numéros sont importants avec des textes très importants à mon avis. Et le prochain fera 60 pages et seront abordées beaucoup de choses. Et là, ça fait 50 francs. Mais je voudrais attirer l'attention sur 3 livres, je serai très rapide. Un qui actuellement fait beaucoup parler de lui, c'est Mystère d'iniquité. Même Rivarol et vous en avez parlé dans le Libre Journal. Mystère d'iniquité, enquête théologique, historique et canonique, qui est vendu en Belgique au Carmel Santa Maria, 4790 Rolande, 143.
Un deuxième. Si quelqu'un a pu noter, moi je vote des félicitations.
C'est trop vite, trop rapide.
Hein.
Bon, Mystère
d'iniquité. Moi, j'en ai pas noté la moitié.
Carmel Santa Maria. 4790.
J'étais à Maria. Alors, 4000.
790.
Oui.
Rolande, R-E-U-L-A-N-D, 143, Belgique.
Oui.
Un deuxième livre de Dominique Godbout, un bon ami, L'orgueil et la déchéance de la vieille France et de la nouvelle France. L'orgueil et la déchéance, notez. C'est sur le problème donc des Bourbons, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et vous apprendrez donc ce que le Canada a vécu avec ces trois rois. Bon, là, vous pouvez le commander directement.
Heureusement, Camille est parti.
Je crois qu'il apprendrait, beaucoup de choses. Oui. Là, vous pouvez le commander aux Amis du Christ Roi de France. C'est 150 francs. C'est un livre important avec énormément de documents.
Si vous donniez l'adresse du Christ
Roi de France. On va la redonner.
Oui, ACRF, boîte postale 2, 44, 140, Aigrefeuille. Et le troisième livre est un monument. Ce ne sont que des textes, 802 pages, 21, 29, 7. Écrit par l'abbé Zins, et qui me paraît remarquable, c'est le catalogue des variations lefébro-traditionalistes face à la doctrine catholique. Pour noter simplement catalogue. C'est un travail gigantesque, à mon avis, fera référence dans les années à venir, parce que, bon, vous avez les pères de l'Église, tous les papes, et toutes les variations traditionnalistes. Alors, l'abbé Zins, il faut commander directement chez lui, 53 480, Saint-Léger en Charny. 53 480 Saint-Léger en Charny.
Quel est le prix?
390 francs plus port 40 francs, c'est-à-dire 430 francs. Bon, ça c'est pour les gens qui veulent travailler avec des documents, beaucoup de documents.
Est-ce que vous pouvez donner l'adresse, l'orthographe du nom de l'abbé?
Zins, Z-I-N-S. C'est un ancien abbé des Cônes qui n'est que diacre, hein, et qui a beaucoup, beaucoup travaillé. Il n'y a aucun commentaire de lui, il n'y a que des textes.
Bien, alors voilà, maintenant je me tourne vers M. l'abbé Cellier, qui est l'éditeur et le directeur de Fidélité. On en parle tous les mois, puisque...
Tous les deux mois.
Tous les deux mois,
bimestriel.
C'est une revue bimestrielle. Le dernier numéro est...
Alors que le dernier numéro, donc, est la suite, le précédent, le numéro 140, avait le grand entretien avec Mgr Follet, qui donnait l'esprit dans lequel Mgr Follet abordait ses entretiens avec Rome. Et là, il y a un certain nombre de commentaires sur ce qui s'est passé. Il y a un commentaire tant qui explique qu'est-ce qui s'est passé dans les conversations.
Alors que ça, c'est la réponse aux auditeurs qui demandaient tout à l'heure où on en est, etc.
Où est-ce qu'on en est? C'est donc le numéro 141 de mai-juin 2001 de Fidélitaire, n'est-ce pas? La question du préalable de la messe, la question du livre sur la réforme liturgique qui a été fait par la fraternité et qui a été remis donc au souverain pontife et à ses conseillers, donc qui s'appelle le problème de la réforme liturgique. Donc ça c'est le Fidélitaire de numéro 141. Donc on peut le commander soit par correspondance. Donc c'est Fidélitaire, boîte postale 88. Boîte postale 88, 91 152 Étampes. 91 152 Étampes. Et le numéro de téléphone, c'est le 01 69 78 30 23. 01 69 78 30 23. Donc on peut avoir ce numéro-là.
À quel prix ?
À quel prix ? C'est 49 francs. Et sinon, on peut s'abonner pour 215 francs. Et on peut aller l'acheter à la librairie France Livre, donc au 6 rue...
à la librairie Saint-Nicolas.
Voilà, 6 rue du Petit Pont, à Paris 5e.
Donc l'abonnement, c'est 215 francs pour combien de numéros ?
Pour 6 numéros, pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui découvrent la revue.
Merci, monsieur l'abbé. Autre chose ?
Voilà, je sais pas, il y avait une question amusante.
Il y a une question personnelle. Voilà, êtes-vous un ancien élève du lycée Honoré de Balzac au valeureux temps de 68?
Voilà, je peux dire ça peut être amusant. Donc je suis effectivement un ancien élève du lycée Honoré de Balzac et il y a deux personnes qui sont très connues. Dehors de moi, mais je suis beaucoup moins connu, qui sont issus de ce lycée Honoré de Balzac à l'époque où j'y étais. C'est Michel Field qui est sur la télévision, qui trône à la télévision, et c'est Joël Aubron qui est donc condamné plusieurs fois à perpétuité puisque c'est membre d'Action Directe. Voilà, c'était des élèves avec qui j'étais au lycée Honoré de Balzac à l'époque. Donc je suis effectivement un ancien de Balzac, 68-76.
Comme quoi les lycées de la République sont du meilleur comme du pire.
On nous demande l'adresse des Amis des Rois de France.
Alors, les Amis du Christ Roi.
Il y a les Amis des Rois de France. Non. Et il y a aussi Amis du Christ Roi de France. Voilà, il y a les deux.
Amis du Christ Roi de France, ACRF, boîte postale 2. Je le répète parce que c'est une adresse facile.
Postale 2.
Voilà. 44-140, Aigrefeuille. Aigrefeuille. C'est tout, il n'y a pas d'S.
Non, pas de problème.
Voilà. Si
le sel de la terre, pouvez-vous redonner l'adresse ? Attendez, vous donnez le numéro du téléphone d'abord.
Oh oui, on peut me joindre sur mon portable. 06. Voilà, vous avez
peur.
Oui, je vais être dérangé. Bon, oui, non.
Qui c'est qui? J'ai commencé. Alors, allez au bout.
Non, il a dit 06, il n'a rien dit.
Voilà.
Et alors, le sel de la terre, pouvez-vous redonner l'adresse où on peut se le procurer ?
Je pense que c'est la haie aux bons hommes.
Ah oui, la haie aux bons hommes. Très joli.
Comment ça s'écrit, ça ?
La haie.
H-A-I-H-A-Y-E.
La haie
aux bons hommes.
UX, bons hommes.
Les hommes bons. Donc je pense que c'est 49-490
Avrier. Et puisqu'on en est aux adresses, comme je m'y attendais, comme je l'ai laissé entendre tout à l'heure, l'adresse internet des Vexillaires Régis était totalement fantaisiste. La bonne adresse, effectivement, c'est www.vexila.regis. .de, ce qui veut dire...
C'est l'Allemagne.
Deutschland. Mais ça n'a rien à voir avec l'Allemagne, malgré tout. Simplement, le serveur est en Allemagne, et Vexillaires Régis, c'est les enseignes du roi. C'est ça, les étendards du roi.
Voilà, c'est un chant du temps de la passion.
Voilà.
Un chant au moment de la passion.
Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus et d'avoir fait preuve de passion et de patience aussi. Et puis, on refait ça dans quelques temps, si vous en avez encore...
Merci aussi à vous, monsieur Beckett, pour votre invitation.
Je me tourne maintenant vers Albéric de la Forêt d'Yvonne, je ne m'en lasserai pas, qui était historienne et qui anime un cercle légitimiste dit Charles de Bonchamp. Alors, qu'est-ce que c'est le cercle légitimiste Charles de Bonchamp ?
Alors, je vais un peu vous expliquer que c'est un cercle... nous avons eu déjà quelques petites réunions préparatoires et il va vraiment démarrer la semaine prochaine. Le jeudi 17 mai à 9h moins le quart.
Oh, ça c'est précis. Ça.
À côté de la place des Ternes. Et nous avons choisi Charles de Bonchamp, qui était un général qui se battit si loyalement pendant les guerres de Vendée. La générosité de ce chef avec les prisonniers ennemis fut illustrée par la célèbre statue de David d'Angers. Alors, ce cercle est...
C'est la statue où on voit Bonchamp mourant,
oui,
qui ordonne à ses hommes de faire grâce à ceux qui l'ont tué.
Oui, à plus de 4500 prisonniers bleus. Donc ce cercle est ouvert à tous, mais
pardon, il faut savoir que David Danger, c'était un sculpteur révolutionnaire, enfin,
ah oui, c'est ça qui est étonnant,
tout
hein.
à fait de gauche, si ça a un sens, oui. à l'époque, oui, mais et qui a voulu rendre hommage quand même.
C'est-à-dire
à
que
Bonchamp.
Je crois qu'il était de la même famille qu'un des Graciers, alors c'était pour remercier qu'il a fait ça.
Voilà. Alors, quel est l'objectif de votre cercle?
C'était assez culturel et on voudrait qu'il y ait au moins une fois par mois ce cercle. On se mettra par petits groupes et ça sera des cercles d'études historiques et culturelles. Donc, nous allons étudier un peu l'histoire de Clovis jusqu'à la mort de Cadoudal, par exemple. Puisqu'il faut bien
changer. Donc, Pharamond, vous. Ça fait pas partie. Ouais, je sais pas. Moi, j'aurais tendance à devenir pharamondiste en vieillissant. Alors,
Donc, en fait, dans une époque qui est un peu morose, on a envie de mettre un peu en relief toute l'histoire de tas de personnages historiques qui ont été extraordinaires. Et puis, il y a quand même beaucoup de préjugés sur l'Ancien Régime qui peuvent quand même être bons de mettre. De faire un peu tomber, parce que il y a de bons livres d'histoire, mais qui sont souvent pas assez connus.
Votre objectif, c'est de faire du révisionnisme historique.
Voilà, c'est
sur,
ça. Et puis, nous espérons susciter de nouvelles expositions, comme il y a eu une vingtaine d'années, sur Saint-Louis, il y avait une exposition à Paris extraordinaire. Donc, on a envie, j'ai déjà contacté une haute responsable du Louvre, qui n'est pas contre le fait de nous aider. Et puis,
alors, donnez surtout pas son nom. Parce que
non, je ne dirai pas son nom. Et j'ai aussi contacté trois historiens qui veulent bien venir nous faire des petites conférences. Et surtout, ils sont d'accord aussi pour qu'il y ait des échanges entre l'historien et ceux qui viendront.
Très bien.
Alors, le groupe est ouvert à tous, mais quand même en priorité aux 18-35 ans. Mais les autres sont très bien accueillis aussi.
Place aux jeunes, comme
c'est quand même l'avenir de la France.
Alors, cercle légitimiste Charles de Bonchamp. La première réunion aura lieu le jeudi 17 mai
à 9h15 près de la place d'Éterne.
Près de la place d'Éterne. Et si on veut en savoir plus,
téléphonez à Madame de la Forêt d'Yvonne au 06 64 91 05 98.
Vous voulez répéter, s'il vous plaît?
Le 06 64 91 05 98. Alors, d'autre part, nous faisons un peu appel aux bénévoles parce que nous voudrions lancer un petit journal où si...
Est-ce bien indispensable?
Oui, c'est peut-être pas...
Moi, je me demande parce que...
Tout le monde me dit que c'est indispensable d'avoir une petite feuille de liaison au moins une fois tous les deux mois. Racontant un peu ce qu'on a fait, nous aurons forcément quand même des étudiants qui sont quand même assez lettrés et assez calés. Ils peuvent éventuellement nous parler de thèses dont ils ont entendu parler. Ça peut quand même être très enrichissant.
On n'y échappera pas. Voilà un nouveau confrère qui vient occuper le marché. Il n'y a rien à faire. On peut pas...
Et alors, nous espérons aussi que par le bouche à oreille, peut-être que monsieur Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, accepterait de venir, car il y a plus d'une décennie, il avait plaidé pour le prince Louis-Alphonse au sujet de son blason et des fleurs de lys, et il avait obtenu gain de cause.
Donc vous souhaitez vous lancer un appel par l'intermédiaire de Radio Courtoisie à monsieur Jean Foyer, garde des Sceaux. Pour qu'ils viennent
à moyen terme, ça serait très très bien.
Et la réunion du 17 mai, elle est
tout près de la place d'Éterne. Vous téléphonez.
Pour connaître l'adresse, il faut appeler madame.
Et la deuxième réunion sera le 16 juin, l'après-midi, le samedi.
Merci beaucoup.
Merci de m'avoir donné la parole.
On informera nos amis auditeurs de la prochaine réunion, mais celle-ci se tient,
merci,
je le rappelle, le 17 mai. À 9h15 près de la place d'Éterne. Et si vous voulez en savoir plus, vous appelez Albéric de la Forêt d'Yvonne au 06 64 91 05 98. Merci madame.
Merci beaucoup.
Mon cher Michel Blanza, si vous voulez prendre place en face de moi, donc nous sommes tous là. Voilà.
Alors, nous sommes le 9 mai.
Pardon.
Nous sommes le 9 mai en plus.
Oui, c'est bien, il connaît les dates. Un calendrier vivant, ce garçon. Alors, autour de cette table, Pierre Hillard, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Minorité et régionalisme dans l'Europe fédérale des régions, enquête sur le plan allemand qui va bouleverser l'Europe. Déjà, quand on a lu le titre du livre, on peut faire l'économie du bouquin, pratiquement. Non, parce qu'il est vraiment fort intéressant. Il est passionnant, il est inquiétant, oui, c'est bon.
Effarant.
Notre autre invité ce soir, c'est Schrecklich, absolument. Non. C'est pas Schrecklich l'autre invité, c'est Alexandre Delval, que les auditeurs de Radio Cantosi connaissent maintenant bien. Je crois que vous êtes un habitué, Alexandre Delval, de notre antenne.
Je suis venu de temps en temps, oui.
Vous êtes venu deux ou trois fois. Tout à l'heure, nous donnerons la parole. J'espère que vous avez apporté votre galette, cher ami.
Mais absolument.
Bon, c'est bien. À Guillaume Wolf, qui est chanteur. C'est ça, je me suis
William,
pas trompé.
William.
Ah, j'ai dit Guillaume, j'ai traduit.
William, pardon. William, oui. Voilà. Je ne suis pas chanteur, c'est-à-dire que j'ai un ami qui est chanteur et qui a chanté pour une chanson que j'ai autoproduite.
Voilà, c'est ça, qui publie un disque, on l'entendra tout à l'heure. Vous savez que j'aime bien faire des petites surprises comme ça, essayer de renouveler un peu le patrimoine musical de Radio Gantosi. Ça ne plaît pas toujours, mais ça ne plaît pas toujours.
Je me rappelle quand vous passiez du Tex Avery.
Ah, j'ai eu passé du texte.
Un grand succès.
Et puis, oui, c'est un brillant succès. Il faudrait que j'avais passé le générique de l'émission rectifié non pas par Tex Avery, mais par son musicien qui s'appelle Spike Jones. Mm-hmm. Et que ça, on peut pas dire que ça avait soulevé l'enthousiasme militant des auditeurs. Enfin, pourtant, c'était très bien. Et donc, vous avez entendu Michel Blanzac qui vient de prendre la parole. Alors.
Ah, oui.
Pourquoi ai-je demandé à Alexandre Delval et à Pierre Hillard de venir ce soir? Bon, parce que d'abord,
ce sont
de beaux auteurs, on ne perd jamais son temps à les écouter. J'ai demandé à Alexandre Delval de venir aussi parce que il y a un malentendu que je voudrais bien éliminer avec lui. J'aime pas trop les malentendus, donc on va régler ça devant la population. J'ai demandé à Pierre Hillard de venir parce que l'actualité s'y prête particulièrement, et je l'ai appelé hier d'ailleurs. En raison de ce qui est en train de se passer à Berlin, où on a... Vous savez pas ce qui se passe à Berlin?
La réunion des différents partis socialistes européens.
Voilà.
Sous l'égide du suzerain Schröder.
Voilà, c'est M. Schröder qui a expliqué qu'il était beau une Europe et fédérale. Or, c'est une musique que je crois avoir déjà entendue plusieurs fois, et je n'ai pas le souvenir que ça soit toujours soldé par des choses extrêmement positives. Je ne lis pas votre écriture, mon cher Michel, donc il faut recommencer en lettres bâtons, s'il vous plaît. Il m'envoie des messages que je ne peux pas déchiffrer. Donc, je disais, j'ai déjà entendu ce genre de discours d'outre-Rhin, et en général, pour nous autres Français, ça se solde par des tas d'ennuis. Voilà. Et donc, on va voir si M. Schröder est capable de recommencer ou pas. Alors, par qui allons-nous commencer?
On parle des Allemands,
non? On parle des Allemands d'abord? Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Delval? Est-ce que c'est un sujet qui vous tire l'hypote?
Ce n'est pas mon sujet de prédilection, mais d'ailleurs, je n'en parle pratiquement jamais. J'ai d'autres fixations, comme dirait certains. Mais par contre, le livre de M. Hillard, à mon avis, est fondamental. Il décrit une réalité, et j'arrêterai là, je ne vais pas parler de votre place, parce que j'ai moi-même rencontré un Allemand, je ne pourrais pas dire son nom, dans un colloque international qui avait grandi dans une partie de l'Espagne qui s'appelle le Pays Basque, et qui était lui-même le fils d'un Allemand missionné pour manipuler les mouvements régionalistes basques. Je suis resté stupéfait. Je trouvais qu'il avait un nom et une physionomie bizarre pour un basque. Et quand j'ai appris ses origines et l'activisme de son père et de lui-même au sein du mouvement basque, je me suis dit ce que m'a dit le général Gallois, comme quoi les Allemands manipulent un certain nombre de mouvements régionalistes pour bâtir une grande Europe où le seul État qui restera national sera l'Allemagne. Je me suis dit que le général Gallois, il n'est pas forcément, comme disent certains pan-germanistes ou germanophiles, il n'est pas forcément paranoïaque, il est plutôt lucide.
Il est moderne.
Et moderne.
Dans le bon sens du terme.
Je crois qu'il a tout compris depuis longtemps.
Il a tout compris.
Sauf, si j'ose dire, des choses franco-françaises sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Mais ça, c'est son problème. Et ça n'est pas le mien. Alors, Pierre Hillard, votre livre tombe.
À pic.
Absolument à pic, puisqu'il est au cœur du sujet, au cœur de l'actualité, qui est une actualité qui est pas médiocre, puisque c'est une actualité qui provoque en ce moment en France un véritable remue-ménage politique. Hein. C'est-à-dire que Schröder ayant parlé d'Allemagne, d'Europe fédérale, lors de la réunion des partis socialistes à Berlin, Jospin a commencé à dire, avec la fermeté qu'on lui connaît, que pour l'instant il dirait rien parce qu'il savait absolument pas ce qu'il pouvait dire sur le sujet. Ça, il l'a pas dit, mais tout le monde
a compris. Il a normalement mon livre, donc il devrait savoir.
Oui, enfin, à supposer qu'il le lise. Et immédiatement, le hanneton s'est précipité sur le sujet pour donner son opinion. Le hanneton, c'est... Oui, vous savez qui c'est, on va pas vous faire de dessin.
Le locataire de l'Élysée.
Oui, c'est ça, le locataire de l'Élysée. Et alors, donc, lui, il avait quelque chose à dire. J'ai pas encore très très bien compris quoi. Il est pour, apparemment.
Oui, depuis son discours, officiellement, il est pour, conseillé par un certain Monod. Mais il faut bien se dire que...
Donc ça, c'est par rapport au fameux... à la fameuse lettre de Cochin, au fameux appel de Cochin, c'est le contraire exactement.
Oui, Jacques Chirac, il a une souplesse d'échine, voilà. Il a tout sauf des convictions.
Oui, on a compris ça depuis longtemps et on n'est pas les seuls à l'avoir compris. Mais en tout cas...
Il est le chef de la Pan-Europe.
Il est le chef de la Pan-Europe, mais ça vous nous en parlerez tout à l'heure. Il est agréable, Michel.
Je viens
pour ne pas parler. C'est bien, il a fait ça l'autre jour.
Je viens pour écouter.
Bon, alors donc, Chirac, qui lançait l'appel de Cochin il y a 20 ans en dénonçant la main de l'étranger dans la culotte de Marianne, aujourd'hui nous dit... chacun prend son plaisir où il le trouve. Aujourd'hui nous dit, si, moi je suis maintenant...
Acquis à la cause fédéraliste. Mais de toute manière, les hommes politiques français, à moins d'être animés d'un courage qui est particulièrement rare aujourd'hui, les hommes politiques français sont obligés de se plier aux directives européennes. Il faut savoir que le droit européen prime sur le droit national. Et que donc, finalement, à moins de provoquer... désolé, j'utilise un mot franglais.
Sauf pour le gaz.
Oui, oui.
Non, mais
oui, c'est vrai.
Le fait est qu'aujourd'hui, la France comparée devant le... Enfin, est traînée devant par la Commission européenne devant la Cour de la Haye parce qu'elle refuse d'appliquer ce qu'elle s'était engagée à appliquer, c'est-à-dire les directives concernant le monopole de gaz de France qui devait disparaître.
Mais avait
et que les chiraco-jospinistes ou les jospino-chiraquiens refusent de directives qu'ils refusent d'appliquer avant les élections. C'est-à-dire que, en fait, une fois de plus, on est en face d'un mensonge où on nous dit on n'en parlera pas jusqu'aux élections,
et après,
votez pour nous, et après on vous la mettra bien profond, comme ça vous aurez compris de quoi il est question. C'est exactement le sujet, et là on est au cœur du mensonge démocratique.
Hein. Voilà, il faut bien comprendre que ce qui se prépare, c'est toujours présenté de différentes manières, soit par la voie politico-juridique, soit par la voie militaire. Les Allemands ont toujours eu une vision fédéraliste de reconnaissance des ethnies et des langues minoritaires. Mais c'est un principe qui était uniquement allemand jusqu'au XVIIIe siècle. Arrive Napoléon, le principe révolutionnaire, etc. Et finalement, ce concept qui était purement allemand du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle s'est européanisé. Et lorsque les Allemands, au début du XIXe siècle, ont voulu s'unir en fonction de la langue allemande, aussi loin on entend la langue allemande, comme dit le poète Arndt, le problème s'est posé de réunir certes le groupe compact qui était au cœur de l'Europe, c'est-à-dire Bavière, Autriche, etc., mais aussi toutes les minorités germaniques qui étaient dispersées en Europe centrale et en Russie européenne. Et l'objectif des Allemands, c'était finalement de réunir tout ça dans un Reich, incluant des populations non allemandes, slaves, magyars, mais en leur accordant une reconnaissance culturelle dans tous les domaines, administratifs, judiciaires, religieux. C'est le fameux article 13, paragraphe 188, de la Constitution de mars 1849, qui est l'ancêtre de tous les documents en faveur de la protection des minorités. Bismarck, qui était le seul homme politique allemand à avoir le sens de la mesure, s'y est opposé et a réussi à faire capoter l'ensemble. Ça a été repris durant la Première Guerre mondiale. Les pan-germanistes allemands, style Otto Richard Tannenberg, voulaient les frontières de l'Europe, faire des frontières de l'Allemagne, les frontières de l'Allemagne en Europe. Ça a été repris par la République de Weimar le 13 janvier 1925. C'est le fameux mémoire de Gustav Stresemann, qui est très très peu connu des francophones, où il voulait, dans le cas de la SDN, favoriser l'émergence des minorités.
J'ai entendu 1925,
1925, 13 janvier 1925, c'est un mémoire que Gustav Stresemann a rédigé, qui n'a été révélé qu'après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'évidemment il était resté secret, et pauvre Aristide Briand, qui lui, pendant ce temps-là, était roulé dans la farine.
Pour un macro, c'est bien.
Oui, oui. Ensuite, bon, c'est une politique qui a capoté là aussi, parce que crise de 29, puis c'est l'année de la mort aussi de Gustav Stresemann, oui. C'était repris par le nazisme, et j'ai retrouvé un document qui ne fait pas plaisir, parce qu'il faut savoir que les Allemands, les nazis, avaient une conception certes ethniciste, mais qui voulaient, d'accord, une domination de l'Allemagne sur l'Europe, mais quelle organisation ? Ben là aussi, c'était un système régionaliste, ethniciste, et j'ai retrouvé auprès d'un collabo qui s'appelait Saint-Loup, enfin de son vrai nom, c'était Marc Augier, qui était le directeur d'une revue collaborationniste qui s'appelait Devenir, un ouvrage particulièrement difficile à retrouver. J'avoue que lorsque je l'ai trouvé et obtenu, il m'a coûté une petite somme, mais j'avoue que je ne regrette pas, puisque dans ce livre se trouve une carte de l'Europe fédérale des régions de la Waffen-SS, et qui correspond, je dis bien exactement, de A jusqu'à Z, aux principes défendus par les autorités politiques allemandes de gauche et de droite. Actuellement, non pas, et ça je tiens à être très très précis, l'Allemagne, dans le cas de l'Union européenne, ne pratique en aucun cas une politique nazie. C'est stupide, le nazisme est mort enterré depuis 1945. Le nazisme n'a été que la énième tentative, le énième chapitre, d'une manière très violente, d'obtenir une domination de l'Europe par le principe, en permettant l'émergence de groupes ethniques autonomes, et évidemment l'Allemagne étant le maître d'œuvre de tout ça, dominant l'ensemble. Depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne, dans le cas de l'Union européenne, a repris cette politique, mais là par la voie politico-juridique, et c'est une politique qui est bien plus subtile que la méthode des Panzer, parce qu'elle est moins douloureuse, elle se fait sur des années, et il faut savoir qu'actuellement, vous avez 5 documents qui vont remodeler le corps européen, la charte des langues régionales lancée par la résolution 192-1988 du rapporteur allemand Herbert Kohn, la convention cadre pour la protection des minorités lancée par un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui s'appelle Rolf Gossmann, qui est aussi l'agent de liaison entre le gouvernement allemand et l'USCE, qui est à l'origine Union fédéraliste et communauté zénique européenne, qui est un institut directement financé par le ministère de l'Intérieur allemand, et dont d'ailleurs j'ai pu retrouver le corps de doctrine de cet institut, l'UFCE, grâce à une maison d'édition à Vienne, la maison d'édition Braumüller, qui a édité un livre qui s'appelle Ethnos, qui regroupe tous les articles en faveur de la protection des minorités, et dans la préface, son directeur, qui s'appelle Christophe Pan, qui est un Autrichien, remercie tous les juristes qui ont donc apporté leur obol, et il y a donc toute la liste des juristes allemands et autrichiens, suivie du ministère des Affaires étrangers autrichiens, plus le ministère de l'Intérieur de la République fédérale d'Allemagne. Tous ces gens-là ont donc conçu un corps de texte, et c'est ce corps de texte qui a servi à l'élaboration de la Charte des langues régionales, puis de la Convention cadre pour la protection des minorités. À cela s'ajoute la Charte de l'autonomie locale, qui est lancée par un document de 1980 qui s'appelle Les institutions régionales en Europe. Son rapporteur est allemand, il porte un nom typiquement français, il s'appelle Monsieur Gallet. Sur le coup, j'ai cru que c'était un français, et puis je me suis renseigné, non,
Pensez que c'était un élu socialiste.
Non, je suis pas tombé aussi bas, mais j'ai pensé à un moment donné que c'était tout simplement un idiot utile. Mais non, ce doit être un huguenot, un allemand descendant d'un huguenot français. Le quatrième élément, c'est la charte de l'autonomie régionale, lancée par la recommandation 34-1997. Son rapporteur est allemand, il s'appelle Peter Rabe. Et là, cette charte est une véritable bombe, puisqu'elle consiste à parcelliser littéralement l'Europe. Il faut savoir, bon, c'est l'ironie, mais ce rapporteur allemand donc s'appelle Peter Rabe, et Rabe en français veut dire le corbeau. Je crois que c'est déjà prémonitoire. Et enfin, le dernier élément, c'est la convention cadre sur la coopération transfrontalière, appelée aussi Charte de Madrid. C'est un document qui a été lancé par un institut européen qui s'appelle l'ARF, Association des régions frontalières européennes, qui n'a d'européen que le nom, parce que tout est allemand, fondateur, président, secrétaire généraux, sauf, c'est l'exception qui confirme la règle, le dernier président qui est un espagnol, mais quand on gratte le vernis espagnol, on tombe sur un catalan.
Un hiver utile, lui.
C'est un catalan qui s'appelle Joan Valvé. Mm-hmm. Et il faut bien se dire l'Allemagne est certes
c'est
la locomotive.
C'est un catalan, ça, Joan Valvé.
Ah, c'est un catalan. D'ailleurs, je peux raconter cette anecdote. Oui, c'était un catalan. puisque à l'époque je n'avais que la liste des présidents allemands de cet institut, l'ARF, c'était en 99, la liste s'arrêtait en 96, et je demande à la personne qui travaille dans cet institut, qui se trouve à Gronau en Allemagne, enfin près de la frontière hollandaise, si c'est toujours Karl Arens, le président qui dirigeant de cet institut. Elle me dit non, nous avons un nouveau président, c'est monsieur Valvé. Je lui dis, ah, monsieur Valvé, mais c'est un nom français, ça. Non, me répond-elle, il est catalan. Alors, il y a deux remarques à faire. Premièrement, cela montre que les Allemands utilisent des mouvements enfin régionalistes, identitaires, pour servir leur cause. Je rappelle que la charte de l'autonomie régionale est certes lancée par les Allemands, le rapporteur est allemand, elle a été présentée pour la première fois au mois de mars 96 par le gouvernement du Land de Basse-Saxe, et à l'époque son ministre-président s'appelle Gerhard Schröder, l'actuel chancelier allemand, donc tout ça, ça se recoupe, mais le président du groupe de travail de cette charte de l'autonomie régionale est catalan, il s'appelle Ibert Quatre-Cassas. Donc je reviens à l'ARF. Et l'objectif de l'ARF, c'est un élément qui m'a fait littéralement bondir, parce que il remet en cause toute la construction de la situation actuelle de l'Europe, mais fait voler en éclat l'État-nation. C'est favoriser l'émergence d'euro-régions, c'est-à-dire c'est une entité territoriale de quelques milliers de kilomètres carrés, de part et d'autre d'une frontière, de favoriser la coopération dans tous les domaines économiques, administratifs, juridiques et entre autres minoritaires. Et l'objectif, et je cite de mémoire de finale de cet institut, l'ARF, c'est de faire en sorte que, la définition exacte, c'est favoriser la suppression des facteurs de distorsion entre les régions, ainsi que le dépassement de la frontière, tout du moins la réduction de son importance à une simple frontière administrative. D'où, premièrement, l'intérêt extrême des Allemands qui ont été expulsés après 45, Silésiens, Poméraniens, Sudètes, qui, avec ces euro-régions le long de la frontière germano-polonaise et germano-tchèque, voient une possibilité de retour dans leur pays d'origine, dans leur Heimat. Et d'ailleurs, il faut savoir que le principe de retour dans la Heimat a été reconnu par l'ONU en août 1997, que son instigateur est américain d'origine franco-espagnole, il s'appelle Alfred Maurice de Zayas, et ce Alfred Maurice de Zayas travaille main dans la main avec le BDV, le Bund der Vertriebenen, qui est la fédération des réfugiés qui réunit Silésiens, Sudètes, etc., et que ce dernier, ce Alfred Maurice de Zayas, a reçu la plus haute distinction de cet institut 15 jours après la reconnaissance de l'ONU. Voilà, donc c'est ça. Alors, révélateur.
En plus, il y a une constatation, une hypothèse qu'on peut émettre, c'est que, une remarque qu'on peut faire plutôt, c'est que ce que vous expliquez, parce qu'on pourrait dire le danger est valable pour l'Allemagne aussi bien que pour la France, à partir du moment où il y a une volonté de parcellisation, de mosaïcisation des nations, le danger est le même. Or, le danger n'est pas le même parce que, je crois, peut-être qu'on peut dire ça, si je me trompe, vous allez m'arrêter, c'est que les Allemands ayant une tradition de Ländern, ils sont plutôt... centro-tropistes, c'est-à-dire que comme ils sont naturellement éloignés ils sont pas du tout jacobins, donc ils ont tendance à vouloir se regrouper naturellement, alors que les Français qui sont, il faut bien dire, écrasés par la tradition jacobine, qui, il faut le dire aussi, remonte avant les jacobins, puisque le centralisme, il était déjà manifesté avant la Révolution, il commençait à se manifester avant la Révolution. Les Français ont tendance à considérer la régionalisation ou la parcellisation comme une chance, comme une opération centrifuge. Et donc, un pays a tendance à se recentrer ou à se regrouper autour de son centre, à partir de régions ou de provinces, et un autre pays a tendance à s'éloigner de son centre dès qu'il est constitué en province. Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui, avec quand même une grande différence, c'est ça qui fait l'opposition entre la France et l'Allemagne. Quand on parle d'amitié franco-allemande, il faut d'abord définir les termes. L'amitié n'est possible que sur la ressemblance, c'est vrai entre deux personnes, et c'est vrai entre deux États. Or, dans le cas de l'Allemagne et la France, il y a une différence. La France est une construction politique. À l'origine, la France ne s'était pas écrit sur les tables de la loi que la France devait exister, alors que l'Allemagne a toujours existé parce qu'il y a un peuple allemand, certes composé de Stämme, de tribus, de souches germaniques, bavaroises, saxonnes, etc. Mais il y a un concept germanique, un groupe germanique. Et les Allemands peuvent se permettre de reconnaître, donner une, comment dire, une indépendance, mais en tout cas une autonomie assez large, parce qu'il y a un groupe ethnique commun avec une langue commune, certes.
Que le regretté chancelier appelait la race allemande.
Race allemande, regretté, je ne sais pas vraiment ce que je dirais, mais enfin, disons.
Non, mais attendez, c'est une. On dit race allemande, chancelier, parce que disons, c'est une référence, c'est comme ça qu'on l'appelait, il n'y a pas de raison de changer le nom.
Oui, mais disons que je dirais plutôt que l'Allemagne a une chance, si on peut appeler ça une chance, que les Français n'ont pas. Il n'y a pas de minorité chez eux, mis à part quelques 60 000 à peu près slaves qu'on appelle les sorabes, 30 000 et quelques danois. Donc c'est un groupe ethnique, un groupe compact. Et l'allemand, le Hordeutsch, est finalement un sorte de dialecte qui a réussi grâce à Luther, sa traduction de la Bible. Le cas de la France n'est pas du tout la même chose. La France est un conglomérat de différentes zones, voire même de territoires qui n'auraient jamais dû à l'origine faire partie de la France. L'Alsace, par exemple, fait partie plutôt du monde rhénan. Il n'était pas écrit que l'Alsace devait rejoindre la communauté française et faire partie donc de la France au même titre que la Bretagne, la Corse ou le Pays Basque. Et donc, l'application de ces textes, chartes des langues régionales, etc., ces textes-là vont aboutir automatiquement à l'éclatement de la nation française et de tous les pays qui ont en leur sein des minorités ou des groupes ethniques importants comme l'Espagne, comme la Belgique, ça c'est bon, et puis pareil pour les Balkans. J'ajoute un autre élément qui est en liaison avec notre situation actuelle. Nous avons des populations immigrées en France comme partout en Europe. Actuellement, ces documents européens ne concernent que les populations européennes. Or, les populations maghrébines, subsahariennes et asiatiques pourront, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, on ne connaît pas la date, mais pourront, dans le cas des droits de l'homme, respect de la différence, etc., réclamer une reconnaissance de leur langue berbère, etc., une autonomie locale ou territoriale, ce qui fait qu'on va avoir une émergence de Kosovo bis. Et que bien, c'est vraiment la mort absolue de l'État français.
C'est tout ce que j'ai dénoncé pendant 20 ans, ou à peu près.
C'est pour ça, c'est vrai, mais je suis obligé de dire, justement parce que j'ai dénoncé pendant 20 ans, ou plus d'ailleurs, j'ai participé à des journaux qui le dénonçaient bien avant. Et quand aujourd'hui on dit, attention, on est menacé par un Kosovo, mais pendant des années on nous a dit, on est menacé par une libanisation. Or, il faut bien admettre que même si on est dans une situation approchante, la réalité, c'est pas ça. On ne peut pas comparer la situation de la France aujourd'hui, sérieusement, avec la situation du Liban en guerre, et on ne peut pas comparer la situation de la France aujourd'hui avec la situation du Kosovo.
Ça ressemble beaucoup à la situation d'avant-guerre. Votre rôle se rapproche de celui de Bainville ou de Sheridan, plus particulièrement du journaliste de l'Illustration, qui avertissait très très largement sur les complots, disait-on, pan-germanistes à l'époque. Ça ressemble étonnamment. Et ce qu'il y a de très étonnant, déjà Bainville s'en étonnait, c'était cette capacité de l'Allemagne de pouvoir dissimuler pendant très longtemps un projet et de le mener à bien sans que les Français s'en inquiètent. Et tout le problème justement de Briand et de ce qu'on a à lui reprocher, c'est Locarno et la suite, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir vu venir ce qui était normalement annoncé par les bons auteurs.
La question de Briand, c'est la question qu'on peut poser à propos de Malvy, on peut poser à propos de tous ces gens. Est-ce qu'ils sont des complices ou est-ce qu'ils sont des dupes? Et aujourd'hui, Chirac, de toute façon, il est rien.
Est-ce qu'on est victime de complot et qu'est-ce que l'on fait? C'est aussi ça, parce que les outils, on commence à les avoir. C'est l'école Gallois qui les fournit. Vous vous sortez directement ou indirectement de.
Est-ce que vous considérez comme un produit de l'école Gallois?
Je dirais que, voyez-vous, Wagner, ce musicien allemand, disait « Je crois en Dieu et en Beethoven ». Moi, personnellement, je traduis en retransformant en disant que je crois en Dieu et en Jacques Bainville.
Oui, Bainville.
Bainville, évidemment, aussi. Mon maître.
Et Gallois, son prophète, non ?
Et Général Gallois, son prophète, son excellent prophète. Évidemment, j'adhère entièrement aux propos du Général Gallois. Mais disons, mon maître à penser, c'est Jacques Bainville.
Je me tourne vers Alexandre Delval, parce que je crois que vous êtes un peu de la même
Moi
personnellement, non, je ne cite pas spécialement Bainville, non. Ou peut-être que je l'ai cité sans le savoir, c'est possible, c'est un homme qui est très intelligent. Non, moi personnellement, je ne suis pas d'une école idéologique aussi marquée. J'essaie d'être quand même un analyste géopolitologue, c'est-à-dire avec une prétention à l'indépendance. On n'est jamais totalement indépendant.
Ouais, c'est en ça que
on
n'est
jamais véritablement subjectif.
C'est en ça que vous êtes
Bainvillien. Je suis peut-être Bainvillien sans le savoir. Je n'ai jamais cité fait, mais peut-être que je le suis sans le savoir, j'ignorais. Ah, mais non, j'essaie plutôt de faire de la géopolitique tout court. Et mon maître, personnellement, c'est le général Gallois.
Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Vous êtes vraiment, vous, alors, un produit de l'école virginale.
Je ne suis pas un clone parce que... Je ne suis pas un clone parce que, déjà, ce serait plutôt réducteur. Et on est soi-même. Je suis un disciple reconnu par lui et aussi fier de l'être par moi, de Gallois. Par contre, nous n'avons pas toujours les mêmes sujets d'études.
Vous n'êtes pas sur la liste de soutien à Chevènement.
Je pense que Chevènement est un homme intéressant et je comprends parfaitement pourquoi Gallois a soutenu Chevènement. Ça lui a été reproché par des milieux de droite.
Mais je vous pose cette question parce que pour économiser des appels téléphoniques aux auditeurs. Oui. On est au courant.
Ça ne me choque pas parce que l'activité politique, à mon avis, doit être différenciée de l'activité géopolitique. Le fait que Gallois ait pu soutenir Chevènement ne connote pas, à mon avis, ses propos et ses études et ne retire pas leur qualité objective.
Il faut toujours apprendre
objective.
Moi c'est moi et lui c'est lui, c'est-à-dire bien délimiter exactement ce que l'on fait.
Mais je précise une chose, un bon disciple doit essayer de... non pas s'opposer pour s'opposer, mais doit essayer, et je ne dis pas forcément dépasser, ce serait très prétentieux, mais de se différencier à un moment ou à un autre de son maître, sinon ça ne reste qu'un clone, et ce n'est pas de l'ingratitude de ma part, mais le but c'est quand même aussi d'avoir une spécificité à un moment ou à un autre.
Alors cela dit, de votre spécificité ou votre parti, votre spécialité n'est pas celle de Pierre Hilard, mais j'ai remarqué que pendant qu'il parlait, vous étiez passionné, vous acquiesciez.
J'étais très passionné par déjà la démonstration percutante, les documentations, les références, extrêmement...
Et toute mémoire.
Et toute mémoire, extrêmement objective. Je suis frappé par la technicité en même temps que le relief. Et c'est très rare, puisque souvent, dans toutes sortes de radios, de télévisions, un certain nombre de personnes affirment un certain nombre d'idées sans jamais rien démontrer, sans prouver. Et ça fait plaisir de voir des gens qui n'acculent pas, qui ne reprochent pas, qui n'affirment pas gratuitement, mais qui démontrent...
Vous m'attaquez, je vous ai rien fait.
Ah non. Alors peut-être que vous reconnaissez, mais non, je ne faisais pas allusion à vous, je faisais allusion à la plupart des journalistes, des télévisions, des radios, qui n'ont absolument aucune argumentation et qui travaillent des images ou qui interprètent des faits de manière
sur l'émotion.
Et qui jouent sur l'émotion, j'allais dire, le sensationnel.
C'est tout le problème, justement.
Et c'est ça qui est grave. Et ce que vous faites, vous, c'est un travail remarquable de documentation.
Bon, alors attendez, là, on va couper court tout de suite un truc parce que ça commence à me fatiguer. C'est le cinquième message que je reçois. Pardonnez-moi, Alexandre Delval, vous n'êtes pas venu pour ça, mais voilà. Peut-on rappeler qu'Alexandre Delval écrit dans Le Lien, journal du Likoud de France, organe raciste et ultra-sioniste. Je signale que je lis un texte, hein, je ne mets pas une opinion. Shalom, n'oubliez pas de passer à l'ambassade demain, prendre votre enveloppe. Ça, je suppose que c'est pour vous ou pour moi. J'ai passé pour un de nous deux, visiblement.
Moi, j'aimerais bien aussi.
C'est très risible. C'est très risible.
Alors, cette histoire, effectivement, ça a été publié, que vous étiez un collaborateur. Ça n'a rien à voir avec le débat, mais.
Je ne suis pas un collabo, non.
Un collaborateur du journal Le Lien, qui est un journal, effectivement,
juif.
L'organe du Likoud. De France, je crois.
Non, je ne pense pas que ce soit l'organe de l'écoute. C'est un journal qui est plutôt religieux que politique, qui s'occupe, qui est sioniste comme un certain nombre de religieux juifs, et qui a une position très intéressante sur l'analyse du conflit israélo-palestinien. Et M. Cohen Tanuji, qui m'avait interviewé, a développé des idées extrêmement intéressantes, notamment sur la paix et la nécessité d'Israël, par exemple, d'adhérer à la Ligue du Monde Arabe. Idée très originale. Autre chose qui est très intéressante dans cette
Difficile, mais intéressante.
Très passionnant. Ça va faire l'objet d'ailleurs d'un volume édité par Panoramique, qui est proche de Marianne. Donc ce sont pas du tout des gens d'extrême droite sioniste.
Mais la question posée, c'est est-ce que vous êtes est-ce que vous avez une chronique dans cette...
Non, j'ai accepté une interview et j'en suis très fier.
Donc vous avez donné une interview.
J'assume tout à fait, je suis très fier d'avoir donné une interview.
Vous avez le droit de donner des interviews où vous voulez,
absolument,
comme moi d'ailleurs.
Et je trouve que c'est regrettable, que pour une interview, ça prouve qu'il y a encore des gens qui sont nostalgiques d'une certaine époque où il fallait pointer à la commandantour.
Non, mais je crois
pour montrer qu'on n'était pas... Je trouve que c'est triste que certaines personnes qui se réclament d'une forme de patriotisme en soient obligées à faire le jeu de l'ennemi.
On ne sait pas qui écrit.
Bien sûr, non, mais c'est une question. Ces personnes qui ont parlé, j'imagine, ne doivent pas se réclamer de l'extrême-gauche. Ce qui est triste, c'est que...
Vous avez tout.
Ou peut-être sont les agitateurs d'extrême-gauche qui sont là justement pour accréditer l'idée du système de la réductio ad hitlerum du patriote.
On ne va pas faire un fromage là-dessus. Le fait est que la réponse est non, vous n'êtes pas... chroniqueur au Lien.
Mais j'ai accepté une interview.
Et vous avez fait donner une interview. D'accord. Moi, j'ai donné une interview à Libération il y a quelques temps.
Très bien.
Ça ne veut pas dire que j'ai une chronique dans Libération. Ça,
c'est bien dommage.
Ben oui, bien sûr, mais ils ne m'ont pas demandé.
Je précise que j'accorde des interviews dans toutes sortes de revues. Je vais dans toutes sortes de radios,
même
pas uniquement en courtoisie. Voilà, je vais dans des radios de gauche, des radios de droite, des radios maghrébines, arabes, des journaux arabes. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ces personnes relèvent un passage dans une revue juive. Ça prouve qu'ils ont vraiment, ils y font une fixette, comme on est dans le langage courant. Voilà. Ils font vraiment une fixation sur un problème. Ils sont omnibulés et ils pourraient peut-être se référer à d'autres littératures que celle de l'entre-deux-guerres ou de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont la manifestation d'une réalité triste.
Donc, ce problème est réglé et on parlera d'autres choses, de plus intéressantes.
Oui, je crois qu'il y a des choses
notamment, d'ailleurs, il y a quand même une question que je voudrais aborder avec vous et avec Pierre Hillard et avec Michel Blanzat, s'il veut bien se décider à prendre la parole, mais apparemment, je n'ai pas parti pour ça. C'est la question des Balkans.
Oui.
Bon, question compliquée, mais voilà. Je voudrais avoir l'opinion de Pierre Hillard sur le rôle de la diplomatie allemande, et plus que la diplomatie, de l'économie, de l'Allemagne dans les Balkans.
Même des Autrichiens aussi, d'ailleurs.
Oui, des Germaniques, pour simplifier. Je voudrais également poser la même question à Alexandre Delval, parce que j'ai émis l'hypothèse, à plusieurs reprises, du haut de ma petite estrade, que le rôle d'Israël dans la gestion de la crise des Balkans était peut-être pas exactement conforme à ce qui apparaissait de façon lisible immédiatement, et qui avait peut-être un rôle oblique, obscur, moins clair. Voilà.
Ce sont des voisins. Bon.
Donc, on en a parlé avec Alexandre Delval, on n'est pas du même avis, mais je dois dire que humblement, je suis obligé de m'effacer devant lui, parce qu'il me paraît mieux qualifié que moi pour parler de cette question. Je garde quand même un certain doute.
Moi, j'en ai aucun, personnellement.
Voilà, bon.
Je n'en ai aucun. Alors, ça va faire plaisir à cet auditeur qui dit que je pointe à l'ambassade d'Israël, mais finalement, il pense ce qu'il veut. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que l'un des hommes politiques les plus connus en Israël, qui a été chef de la radio la plus importante nationale, de la télévision la plus importante, monsieur Lapid, Yosef Lapid, qui était le président qui est toujours le président du parti centriste Shinoui. Ces gens-là qui parlent d'Israël devraient un peu mieux connaître Israël avant de juger. Ne parlons pas uniquement de ce monsieur Yosef Lapid, mais également de Sharon et du parti Likoud. Ces deux mouvements, l'un centriste, l'autre de droite, droite dure, on appelle ça comme on veut, ont, pendant toute la guerre du Kosovo, fait de multiples manifestations, des démarches extrêmement virulentes pour critiquer la réduction à l'Hitlérum, le fait qu'on avait nazifié Milosevic et les Serbes. Ils se sont inscrits en faux. Des volontaires ont même été se battre aux côtés des Serbes pendant la guerre du Kosovo au nom de la mémoire de l'amitié judéo-serbe. Et il faut savoir que Israël n'était pas du tout aussi unanime que la France ou l'Allemagne. Alors là, l'Allemagne, n'en parlons pas, était totalement pro-kosovar. Israël était extrêmement partagé. Il y avait un clivage. Il y avait les politiquement corrects, comme il y en a partout, qui étaient pour la guerre du Kosovo. Mais la plupart de la société civile israélienne était globalement pro-serbe, était outré par cet anti-serbisme. Mais je vous dis aussi des hommes politiques
connus. Qui est des citoyens connus. Et même des hommes politiques connus qui n'étaient pas au pouvoir à l'époque.
Et deux partis politiques connus, dont un, le parti centriste.
Oui, mais qui n'était pas au pouvoir.
Qui n'était pas au pouvoir, mais qui est une sommité, c'est l'équivalent, je dirais, c'est un mélange de Pasqua et de Poivre d'Arvor. Il est à la fois politicien et un grand journaliste.
Non, mais c'est vraiment dur. Ça.
Mais il ne s'agit pas de porter de valeur bien ou mal. C'est un homme extrêmement connu, dans la société très influent. Il y a eu des volontaires, des militaires, qui ont été se battre aux côtés des Serbes.
Encore
il n'y a eu aucun volontaire israélien du côté des Kosovars. Donc je pense qu'il faut arrêter avec ces grilles de lecture. Quand il pleut, c'est la faute des Juifs ou d'Israël. Quand il neige, c'est la faute des Juifs d'Israël. Je pense qu'il faut revenir peut-être à l'Allemagne. En l'occurrence, ce ne sont pas les Israéliens qui sont à l'origine de la rébellion kosovare. C'est la grille de lecture de M. Hillard. C'est plutôt les services secrets américains, je l'ai montré dans mon livre, mais aussi allemands et autrichiens. Les bons Germains et les WASP sont derrière les rébellions kosovars, comme ils étaient derrière les rébellions bosniaques, comme ils sont derrière l'irrédentisme islamique albanais dans les Balkans, dans un but anti-serbe. Parce que justement, les Serbes, c'est l'orthodoxie, c'est le monde, c'est le prolongement stratégique de la Russie. Et il fallait, si vous permettez, fallait absolument casser cette entité yougoslave qui était un obstacle à l'OTAN. Et là, les Allemands, qui sont les meilleurs alliés des Américains, américain dans l'OTAN en Europe et le plus grand allié volontaire qui participe à l'hégémonie américaine, comme le disent les Américains eux-mêmes, comme Brzezinski, les Allemands ont pleinement joué une stratégie pro-kosovar et anti-serbe. Je pense que c'est beaucoup plus ça la réalité que d'accuser Israël parce qu'il y avait Madeleine Albright qui n'est même pas juive et parce qu'il y avait M. Cohen qui n'est juif que par son père. Alors on prend des grilles de lecture parce qu'on trouve deux noms d'origine juive et on oublie la réalité qui est les services secrets allemands ou autrichiens. Là, je passe la parole à M. Hillard qui en sait probablement plus que moi.
J'appuie les propos d'Alexandre Delval. Il y a un institut qui s'appelle l'UFCE, l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, dont le siège est à Flensbourg, dans le nord de l'Allemagne. Institut directement financé par le ministère de l'Intérieur et le Land du Schleswig-Holstein. Et cet institut soutient directement à peu près une centaine de mouvements autonomistes en Europe, en particulier dans le cas de la France, des mouvements autonomistes bretons, flamands, alsaciens, mosellans. Mais en ce qui concerne les Balkans, il y a toute une série de, bon, les minorités allemandes, de Hongrie, de Roumanie, ça va de soi, mais aussi les Kosovars. Or, là, c'est intéressant, d'habitude, ces minorités ont leur siège dans le pays où elles résident. Par exemple, les Bretons, soutenus par cet institut, ont leur siège en Bretagne. Les Alsaciens ont leur siège en Alsace. Mais dans le cas des Kosovars, et ça peut-être qu'Alexandre Delval n'a pas ces documents, mais je pourrais les lui fournir. Les Allemands donc soutiennent les mouvements, enfin l'UFCE plus exactement soutient les Kosovars qui ont deux sièges aux États-Unis, l'un dans l'État de l'Illinois et l'autre dans l'État de New York. Et j'ai les adresses, donc je pourrais vous les fournir.
Très intéressant.
Et évidemment, les Kosovars sont entièrement soutenus par les Allemands, et je peux vous citer cet élément, mais il me faut quelques secondes le temps de retrouver cette information. Donc,
exactement, il y a eu les services spéciaux aussi, autrichiens et allemands, et le BND, qui ont financé à la fois les Bosniaques et les Kosovars. Vous avez probablement des documents là-dessus.
Voilà.
Et aussi les ministères d'affaires étrangères.
Voilà. Donc, les Albanais du Kosovo sont soutenus dans cet institut UFCE. Il y a eu trois résolutions que j'ai donc retirées des rapports que j'ai pu obtenir auprès de cet institut UFCE, 96, 97 et 98. J'ai obtenu ces documents en janvier 99. Je vous lis la résolution 1998 de l'Assemblée des délégués de l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, donc des Albanais du Kosovo, qui dit ceci. L'Assemblée des délégués de l'UFCE demande qu'une plus forte pression soit exercée sur le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et sur la République serbe de façon qu'elle cesse immédiatement toutes les interventions militaires, paramilitaires et policières contre la communauté albanaise, que les troupes de l'OTAN viennent immédiatement stationner au Kosovo afin de garantir que la terreur et les violentes atteintes commises en violation des droits de l'homme à l'égard des Albanais ne se renouvellent pas. Au gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie et au chef de la communauté ethnique albanaise de clore les entretiens qu'ils ont depuis longtemps entamés concernant la situation au Kosovo en conformité avec les principes de protection des droits de l'homme et des minorités. Résolution qui date de 98. J'ai reçu ce document en janvier 99, deux mois plus tard, mars 99. L'OTAN attaquait la Serbie. Et croyez-moi, j'ai repris mon document, je l'ai lu, je me suis dit, ah ben maintenant ils sont passés à l'action.
Et vous qui êtes spécialiste de la diplomatie allemande, vous avez dû remarquer que pendant l'affaire macédonienne, qui découle de la guerre du Kosovo, comme j'expliquais dans le jeu stratégique, qui a le plus fustigé les représailles militaires du gouvernement macédonien contre la rébellion de l'UCKM, l'UCK macédonienne, c'est M. Fischer et M. Schröder qui ont été le plus loin dans la critique, attention aux représailles des Macédoniens. Donc il y a une rébellion, on a pas le droit de lutter contre la rébellion, et si on envoie un ou deux obus dans une forêt où il y a des indépendantistes qui tirent au mortier, on est coupable d'une agression
contre l'Allemagne.
Et on appelle l'OTAN de ses voeux, et c'est la raison pour laquelle les Américains
en ce moment,
vont maintenir leurs soldats au Kosovo.
C'est ce qui se passe en ce moment en Macédoine.
Absolument.
Où on entend à longueur de journée les représentants de
Américains,
de l'ordre
allemand,
mondial,
oui, de l'OTAN,
dire aux Macédoniens surtout faites preuve de mesure.
Voilà. Comment peut-on être mesuré avec des terroristes?
Alors, retombe sur ce que j'évoquais tout à l'heure. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que au fond, tout le monde tombe sur le poil des Macédoniens qui simplement se défendent contre des gens qui sont en train d'essayer de provoquer une scission, une sécession, et en tout cas, une sécession sur le territoire macédonien. Et dans le même temps, personne ne demande à M. Sharon de mettre un terme au bombardement des territoires palestiniens.
Il y a une raison très simple. Oui, bah, la Macédoine est un État microscopique qui a à peine de quoi acheter des cartouches.
C'est ça.
Israël est une puissance atomique. C'est pas une question de complot juif ou de lobby juif. C'est carrément. L'OTAN n'a jamais frappé la Russie comme elle a jamais frappé l'Inde ou la Chine.
Non, mais
une puissance nucléaire, on la frappe moins facilement que la Macédoine ou la petite Serbie.
L'OTAN n'aurait jamais attaqué la
Serbie. C'est la véritable grille de lecture géopolitique.
Comme l'OTAN n'aurait jamais attaqué la Serbie.
Mais Dieu sait si Sharon est fustigé dans la presse au moins autant que je dirais même plus que le président macédonien.
Je crois sans peine. Premier ministre macédonien. C'est sûr. Je crois sans peine d'autres explications, mais c'est une. Moi, si vous voulez, cette question-là, elle ne m'intéresse qu'à la lumière de ce qui peut se passer en France. Oui. Et ça prouve, tout ça prouve bien que quand les dirigeants français font du aplaventrisme devant les dictats de l'ordre mondial, des Américains, de l'ONU et tout, ce sont des lopettes parce que nous aussi on a une puissance nucléaire et nous aussi on pourrait dire
exactement
ce que dit Sharon.
Notre servilité est volontaire, comme l'a dit la Boétie.
C'est ça que je veux dire.
La Boétie, la servitude volontaire, c'est la grande explication de beaucoup de phénomènes hégémoniques, c'est surtout ceux qui acceptent l'hégémonie.
Alors, dans le même ordre d'idée, justement, il y a une continuité visiblement entre la CDU et les socialistes.
Côté-là, oui, c'est la même famille. D'ailleurs, dans mon livre, je cite
des réseaux. C'est ça ce que l'on veut dire. Il y a une imposture démocratique par rapport à ce
côté-là.
On nous raconte des choses comme quoi ça change, mais en réalité, les buts restent les mêmes et les puissances sont des puissances. On ne peut pas considérer que la politique change quelque chose.
Ce côté-là, il y a une unité de vue, de position entre CDU et SPD. Ça ne bouge pas d'ailleurs. Je me suis amusé, enfin si on peut dire, à relever les résolutions votées par le Bundestag en 94 et 97 en faveur de la protection des minorités germaniques dans tout l'Est européen, voire même de leur retour, de obliger les États polonais, tchèques, etc. à supprimer les décrets contre les droits de l'homme. Il faut savoir par exemple que la République tchèque en 45 a expulsé 3 millions de Sudètes. Mm-hmm. Ce sont les fameux décrets Beneš. Et donc là aussi, les Allemands ils tiennent ces pays dans leur ligne de mire parce que la Pologne, la République tchèque, la Hongrie, etc. ce sont des pays qui vont devoir adapter leur législation aux normes européennes qui, sous-entendu, sont allemandes puisque les décrets Beneš sont contraires aux droits de l'homme, sont entendus contraires aussi à la charte des droits des langues régionales, contraire à la Convention 4 pour la protection des minorités. Et les résolutions qui ont été votées par le Bundestag en 94 et en 97, tout parti confondu, c'est soit unanimité, soit il y a eu un cas, d'ailleurs je n'ai jamais connu la raison, où il y a unanimité moins une voix contre et une abstention. Vraiment, c'est
ça ce qui nous concerne précisément. C'est-à-dire les questions de comment on nous maintient des camisoles, parce que la géopolitique peut être une science, en tout cas une science humaine, ça c'est certain, une démarche, et il faut pas greffer dessus des préoccupations politiques quotidiennes qui fait que l'on est à s'insulter pour des raisons qui sont secondaires par rapport à l'analyse que l'on essaye de porter sur telle ou telle chose. Si on arrive à dépassionner, il y a des travaux qui sont utiles pour comprendre et à partir de là, les individus s'organisent politiquement comme ils le souhaitent. Mais il vaut mieux commencer par avoir accès aux travaux sérieux.
Tout à fait d'accord avec vous.
Oui. Alors, un auditeur nous dit, restons français.
Oui, et je voudrais dire, essayer.
On est resté français parce qu'en réalité, c'est pas par hasard que j'ai réuni autour de cette table Alexandre Delval et Pierre Hillard avec Michel Blanzat, parce que c'est pas par hasard qu'on parle des Balkans. Parce que quand on parle des Balkans, on parle de la France. Mm-hmm. Et quand on parle de l'Allemagne, de ce que fait l'Allemagne dans les Balkans, on parle de ce que va faire l'Allemagne en France, parce que ça sera la même chose. On est, et quand vous disiez tout à l'heure, on est menacé par des Kosovo.
Les Kosovo bis. Ils sont en train de pousser.
Voilà.
De même exemple, la ville de Roubaix pourra réclamer avec ses 60% de musulmans une autonomie locale, parce que le document européen l'autorise. Plus une reconnaissance des langues parlées, qui ne seront pas le suédois, et
en plus,
une reconnaissance du groupe ethnique.
Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au Pays Basque, on voit bien que la revendication de l'autonomie, à terme, si un groupuscule est assez déterminé pour ça, cette revendication de l'autonomie, elle aboutit très vite à la revendication de l'indépendance absolue, et même de l'indépendance hostile, je dirais, parce que le Pays Basque, dans l'hypothèse de la réalisation des objectifs de l'ETA, ça sera un pays indépendant dans la sphère espagnole et un pays indépendant hostile à ses voisins, ennemis. Et donc, dans ce que vous imaginez, si on imagine une enclave, ce qui est tout à fait imaginable, à la lumière du Kosovo, par exemple, une enclave arabo-islamique dans le nord de la France, dans la région de
Marseille, etc.
Marseille, la Seine-Saint-Denis, Roubaix, etc.
Et Paris en Espagne.
Ce seront des enclaves qui seront autonomes pendant un certain temps, puis qui deviendront très rapidement, qui revendiqueront très rapidement leur indépendance, et qui seront à l'évidence d'abord des sas d'invasion, et deuxièmement des enclaves indépendantes hostiles, pour des raisons évidentes, pour des raisons culturelles, pour des raisons
religieuses,
pour des raisons ethniques, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, et aussi pour des raisons historiques, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là sont élevés dans le culte de, enfin, ou plutôt dans l'idée qu'ils ont des droits sur nous, parce qu'ils ont des comptes à régler, parce que pendant 130 ans on les a réduits en esclavage, et que par conséquent ils ont une espèce de dette, ils ont plus exactement une espèce de créance sur nous, et que cette créance, ils ont le droit de la conquérir partout, de la récupérer par tout moyen.
Mais vous constatez, pardon. Et ça se terminera, s'il n'y a pas un élément qui arrête tout ça, par une guerre civile, tuerie, massacre, viol, et d'ailleurs en ce qui concerne ce dernier point, c'est peut-être le seul cas où on pourra vraiment parler d'intégration. Mais en dehors de ça, ça nous promet de beaux jours.
Et vous constaterez, pour corroborer ce que vous dites, que il y a un lien avec la France, même quand on parle des Balkans, puisque ces islamistes de Roubaix, où sont-ils entraînés? En Bosnie, au Kosovo. Et on en retrouve régulièrement, Lionel Dunon, Christophe Caz, on retrouve ces gens entraînés par les moudjahidines bosniaques, et même récemment, pendant la guerre du Kosovo, au sein de l'UCK. Donc vous voyez,
c'est lié.
Quand on parle des Balkans, ça ne veut pas dire qu'on oublie la France. Et autre chose, l'ex-Yougoslavie était un allié traditionnel de la France, et la destruction de l'ex-Yougoslavie avec son élément majoritaire serbe, ça veut dire aussi la destruction de l'allié de la France, et donc le fait que l'Allemagne, encore une fois, double la France dans sa profondeur stratégique, marque un point en Méditerranée. Donc on n'a pas oublié la France, je pense qu'on est rien de plus français qu'en parlant de tout cela.
Je tiens à préciser un élément, ça c'est un, si je puis dire, un scoop que je livre, que j'ai découvert il y a peu de temps, qui ne se trouve pas dans mon livre. Il faut bien comprendre que, bon certes, actuellement on parle de Schröder qui veut imposer le système allemand, le système fédéral, mais tout système politique repose sur une philosophie, une spiritualité qui le reflet, intime du pays. Et c'est pareil dans le domaine juridique. Si l'Allemagne réussit à imposer son fédéralisme, c'est une forme de germanisation des institutions françaises. Dans le domaine juridique, il faut savoir que durant le Moyen-Âge, les Allemands, pour germaniser les peuples slaves conquis, ont imposé un droit municipal qui s'appelait le droit de Lübeck et le droit de Magdebourg. Donc les élites politiques slaves ont été obligées de s'imprégner d'une culture juridique qui n'était pas la leur, qui était celle d'un autre pays, donc c'était aussi une forme de germanisation. Or, j'ai fait une découverte, je crois, enfin, d'un point de vue officiel, n'a jamais été révélée. Depuis 1992, vous avez un institut allemand qui est l'abréviation de IRZ, c'est-à-dire International Rechtliche Zusammenarbeit, coopération juridique internationale, dont le siège est à Bonn, qui a été fondé en 92 par Klaus Kinkel, qui était à un moment donné d'ailleurs le patron des services de renseignement allemands, et qui a pour but de germaniser tout le droit, tous les systèmes juridiques des pays d'Europe centrale et de la Russie européenne. Ce qui fait que vous avez par exemple le code civil ukrainien qui est allemand, le droit fiscal russe qui est allemand, et on aboutit à une germanisation, à une extension du droit allemand dans ces pays slaves ou magyars, ce qui fait que pour l'Allemagne, premièrement, c'est une extension de sa zone d'influence, et deuxièmement, pour les entreprises allemandes qui souhaitent s'établir dans ce pays, eh bien c'est tout bon, puisque le droit qui régit ces pays est à la virgule près le droit allemand.
Est-ce que le droit américain est d'inspiration allemande? Parce que on sait une chose, c'est que le peuplement des États-Unis est un peuplement qui a été majoritairement allemand,
en partie,
sur le plan linguistique en tout cas, puisque jusqu'en 1914, la question se pose de la langue officielle des États-Unis, et sauf erreur de ma part, en 14, la décision est prise à une voix près, que la langue officielle sera l'anglais et non pas l'allemand.
Exactement.
C'est-à-dire qu'à une voix près au Congrès, les États-Unis parlent allemand. Est-ce que cette question linguistique, est-ce que cette imprégnation linguistique, elle est valable aussi pour ce qui est de la justice?
Parce qu'une communauté de pensée, d'abord ce sont des peuples germains, anglo-saxons, il y a bien plus d'entente entre ces peuples que nous, latins. Surtout en plus, la religion aide énormément. Le protestantisme contribue fortement à amollir l'esprit, non, parce qu'il y a des protestants tout à fait respectables, mais je veux dire par là, permet une collusion entre allemands protestants et anglo-saxons.
l'accent protestant. Donc oui, c'est spontané.
Donc
oui,
ça veut dire que ce que vous nous expliquez du projet allemand de germanisation du droit
polonais, russe, ukrainien, voilà. Bâle.
C'est en fait, ça revient à une germanisation quasi globale du droit, aussi bien en Amérique, enfin aux États-Unis, qu'en Europe centrale, en Europe du Nord.
Finalement, le droit français, il est bien réduit.
Mais c'est bien ça, le nouvel ordre mondial.
On le retrouve en Italie.
Oui.
C'est sans doute ce qui a été pensé dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la Pan-Europe, précisément. C'était cette idée-là, de besoin d'associer la France et l'Allemagne, était voulu par Churchill, au départ. Et c'était l'idée de...
Jean 40.
Oui, tout à fait.
Churchill qui disait, on a tué le mauvais cochon. Oui, il ne faut jamais oublier cette phrase.
Vous parlez de quelle Pan-Europe ?
Celle qui était issue des plans de Kudenov-Kellergi.
Les deux sont issus de Kellergi, sauf qu'il y en a une qui a évolué ensuite vers une confédération, un confédéralisme plutôt souverainiste, qui est représenté à l'heure actuelle par M. Bournazel, qui est une scission de la première.
Ça, c'est tout à fait autre chose. Mais l'autre le patron aujourd'hui en France, c'est Jacques Chirac. Vous tapez sur Internet et vous avez Jacques Chirac, avec tous les anciens du gaullisme un peu bizarre, Terre Noire et des gens comme ça, qui...
Et on retrouve monsieur Habib de l'Oncle aussi.
Voilà, c'est lui qui ne me venait pas.
Président de la Chambre de commerce franco-arabe, oui.
Bon, donc il y a des choses quand même curieuses sur la Pan-Europe.
Oui, là j'en profite, je vais faire un petit peu de réclame. Et je voudrais dire aux auditeurs, ce dont on est en train de parler, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes dans la compréhension des mécanismes de la diplomatie internationale, du commerce international, de la finance internationale, et même les grands équilibres géopolitiques. C'est des choses qui sont jamais expliquées nulle part, enfin qui ne sont en tout cas jamais expliquées dans les journaux directement accessibles, facilement accessibles, c'est vrai.
Hein. Vous parlez des postures géopolitiques ou expliquées.
Les questions comme la Pan-Europe, par exemple.
Voilà.
Ce que vous voulez dire, c'est que nous, on a tenté de faire deux, trois numéros.
Nous, ça fait maintenant pas deux, trois numéros.
Sur la Pan-Europe, on a dû faire.
Sur la Pan-Europe, oui, on a fait deux, trois numéros. Mais ça fait maintenant, je pense, 5 ou 6 ans qu'on publie que je publie les articles de Michel Blanzac qui se penchent là-dessus.
Oui.
Je crois que c'est
depuis le Kosovo. Ça fait surtout depuis.
Parce que ce sont des mouvements relativement élitistes. J'ai fait des conférences chez eux. Et tenez-vous bien, il y a le pendant de Pan-Europe, encore plus connu, c'est le mouvement européen. Ouais. Non, je parle du mouvement. Vous connaissez le mouvement européen. J'ai fait aussi une conférence chez Pan-Europe, mais la première, celle dont vous parlez. Donc, je connais bien les deux. Et ce qui était stupéfiant, j'avais fait une conférence sur le problème de l'islamisme et du terrorisme islamique en général, et du levier identitaire et de l'immigration, du lien entre l'immigration et l'islamisme, comment les immigrés étaient récupérés, ou en tout cas comment les islamistes essayaient d'instrumentaliser l'immigration islamique en France. Figurez-vous que j'ai été totalement accepté par l'Assemblée, qui a dit que c'est très intéressant. Ils étaient effrayés. Comment c'est cet intégrisme islamique qui essaie de manipuler les jeunes de nos banlieues? Eh bien, j'ai été littéralement apostrophé par les organisateurs après la conférence parce que j'avais été trop populaire. Je m'excuse, c'est pas très humble, mais pour vous dire l'état d'esprit de ces gens-là, j'avais dit quelque chose qui avait trop plu, qui risquait de réveiller des passions. Faut surtout pas réveiller des passions. Donc il aurait fallu mentir. Et on m'a dit, vous auriez très bien plus parler d'autre chose, c'était pas prévu que vous deviez là-dessus. Vous avez excité les gens, après ils étaient inquiets. Ils ont même redemandé à ce que vous reveniez parler du terrorisme islamique parce qu'ils ont eu peur. J'ai osé leur faire peur. Donc pour ne pas faire peur, faut la politique de l'autruche. Il faut dire comme Gilles Kepel que tout va bien.
Tout va bien,
rien de neuf sous le soleil. L'islamisme n'est pas un danger. Et finalement, c'est une invention de certains services secrets. La majorité des musulmans sont modérés. Le Coran est un livre d'amour. Voilà, on retombe dans la politique de l'autruche puisqu'il faut pas faire du populisme et faire peur aux gens en réveillant le cerveau reptilien. C'est quand même grave. Donc ce sont des mouvements élitistes qui veulent surtout pas jouer sur le populisme et les grands médias. Ce sont des groupes d'influence semi-occultes.
Oui. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire et en même temps ce que je disais avant, c'est que la grande presse a la même attitude. La presse, les médias ont la même attitude que celle que vous venez de dénoncer. Et le résultat, c'est que même les gens que j'aime appeler les gens de chez nous, les gens de la famille, ne se rendent pas compte d'une chose. Je le vois à travers certains messages qu'on reçoit là. Ils ne se rendent pas compte que, qu'ils le veuillent ou non, ils sont littéralement matraqués par la télévision, la radio, les journaux, c'est pas par le
même les
ce qu'ils entendent,
même
les journaux de mode, même les journaux de mode, là, oui, par exemple.
Ça partout dans Elle, dans n'importe quoi.
La fameuse organisation humanitaire dont vous avez parlé, qui est dirigée par.
Il y avait équilibre, il y avait.
La productrice de cinéma. Là.
Ah oui, Albina Dubois-Rouvray.
Albina Dubois-Rouvray.
Ça c'est un
personnage mondain, etc., qui apparaît totalement.
C'est la fondation Bagnouf.
Innocent, enfin, ouais. elle a créé une fondation à la mémoire de son fils qui est mort dans un accident d'hélicoptère. Bon,
avec Balavoine.
Tout ça paraît très gentil, etc. En réalité, ce sont des associations,
c'est
des
gens du FMI,
organisations.
C'est Wolfenson qui est le co-machin, et ainsi de suite. Tout ça, c'est dans le Libre Journal.
Ce sont des organisations qui participent à la formation des esprits ou à la déformation des esprits, à la désinformation, à l'asservissement.
En réalité, tout le monde complote.
Et le résultat, c'est
ça,
que les meilleurs des Français, les meilleurs des gens les plus prudents, les plus sérieux, les plus réfléchis, par manque d'information, par défaut de moyens de s'informer.
Et puis la presse n'est pas très intelligente, de manière générale.
Ils finissent par être imprégnés de ces trucs-là. Et on voit, ils ont des réflexes qui sont d'abord des réflexes d'agressivité quand on dit quelque chose qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne croient pas. Ou dont ils ne sont pas informés, et ensuite des réflexes de négation. D'ailleurs, ils disent ce que vous dites n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ce qu'on dit n'est pas vrai? Parce que on leur a dit le contraire sur toutes les radios, sur toutes les télévisions et dans tous les journaux depuis des mois ou depuis des années. Et je crois que justement une radio comme Radio Courtoisie ou un journal comme le Libre Journal de la France Courtoise et des livres comme ceux que vous publiez,
surtout ceux-là. Oui, c'est
ils ont
que
pour objet de.
Oui. Vous avez toute l'école géopolitique qui fait le travail qu'aurait dû faire la presse. La presse ne le fait plus. Elle est là uniquement tenue par des intérêts. Vous avez passé quand même 20 et quelques années ou plus à le dénoncer, mais c'est vrai, les intérêts empêchent maintenant toute pensée de s'exprimer. Et le résultat, si maintenant on en est à se débattre avec des choses compliquées et dangereuses, c'est parce que les gens n'ont pas été informés. Nous croyons réellement à l'information.
Mais M. Hillard et moi-même, nous informons dans la revue géostratégique en l'occurrence, sur l'Allemagne ou sur la Macédoine personnellement, et je pense que ce sont des travaux qui peuvent être
l'Institut,
pas tout à fait inutiles.
L'Institut stratégique, oui, publie des revues.
Effectivement, et j'en profite puisqu'on est en plein dans les réclames, que je dédicacerai mon livre samedi prochain, le 12 mai, à la librairie France Libre, 6 rue du Petit Pont, dans le 5e arrondissement, de 15h à 19h. Donc
les 15h. Saint-Nicolas.
Oui, c'est ça, c'est France Libre, donc, de 15h à 19h, samedi prochain, 12 mai. Donc venez nombreux, je serai heureux de dédicacer.
Donc, si on veut vous rencontrer, c'est samedi.
Il n'y a pas de problème.
12 mai, librairie Saint-Nicolas.
À partir de 15h.
Et Alexandre Delval, on le rencontre peut-être quelque part. Il y a le livre là sur la guerre contre l'Europe avec un nouveau chapitre
édition
sur la Macédoine, les éditions des Sirtes.
Déjà dans Guerre contre l'Europe numéro 1, j'avais averti du danger de prolifération de l'irrédentisme albanais. J'avais averti, j'avais même annoncé l'éclatement de la Macédoine et l'éclatement du Monténégro. Et j'irai même plus loin, de la Grèce dans quelques années.
La Grèce, c'est que
ça va aller très loin. On a déclenché une dynamique que l'on ne peut plus arrêter. L'irrédentisme albanais porté par une démographie et par le précédent de la guerre du Kosovo qui en plus les a frustrés. On les a aidés, mais en plus on les a frustrés. Parce qu'on n'est pas été jusqu'au bout, on leur a pas donné une totale indépendance, ils vont encore mettre la pagaille pendant un certain nombre d'années, et ils sont portés, je le répète, par une démographie extrêmement virulente. Comme par hasard, les deux taux de démographie des peuples, je dirais, blancs, les plus importants, c'est Gaza, territoire occupé, et les Albanais des Balkans. C'est marrant. Donc certains peuples qui ont l'impression de ne pas avoir de puissance géopolitique et qui n'ont pas de territoire, compensent de manière tout à fait naturelle par un taux de fécondité extrêmement virulent. Alors, et cela montre bien qu'on ne peut pas arrêter l'hydre de l'irrédentisme albanais dans les Balkans.
Un dernier mot, je crois que vous publiez un journal, une revue.
Oui, la revue géostratégique, que M. Hillard aussi écrit.
Ah oui, vous en avez parlé.
C'est une revue de, comme l'autre, c'est le mélange de la stratégie et de la géopolitique. C'est une nouvelle école qu'on a vue. Voilà, merci. On a créé il n'y a pas très longtemps. Et on essaie de réunir dans cette revue toutes sortes de personnes, y compris celles qui ne pensent pas du tout la même chose. On retrouve à la fois le général de la Maisonneuve, le général Paris, l'un de droite, l'autre de gauche, M. Hillard, moi-même, des Iraniens, des Français, des Italiens. Je pense que c'est quelque chose d'unique, M. Vernochet. C'est quelque chose d'unique. On retrouve toutes sortes de tendances sans aucun. C'est une véritable revue d'analyse et en même temps de débat.
Exact. Merci à tous les deux d'être venus. On n'a pas refait le monde, mais enfin, on a jeté des petits.
On a apporté des preuves.
Voilà, on a apporté des preuves et des lumières. Ah. Alors maintenant, on change totalement de sujet. Il nous reste quelques minutes. Je me tourne vers William Wolfe, voilà. William Wolfe, ou Guillaume Leloup, je pense qu'on va
William.
Alors, vous avez fait, vous faites partie de ces fous qui décident un jour de faire des disques ou des livres, de devenir imprimeur, éditeur, voilà. Producteur de disques et tout. Et vous m'avez envoyé ce disque. J'ai trouvé que ça méritait d'être écouté. Et je propose qu'on l'écoute, oui, puis d'accord. Ensuite vous nous expliquez en peu de mots pourquoi vous avez fait ça.
D'accord.
Un beau matin, j'ai rencontré le roi. Venant de loin, il remontait les actes pour vous sauver, madame, de l'outrage commis par les ennemis qui, hélas, vous soudoient. Soyez maudits, vous les épigones de la terreur, ombre des lumières. L'histoire, la vraie, accuse les frères d'avoir porté aux foules la franc-maçonne. Un beau matin, j'ai rencontré le roi de Saint-Denis. Il marchait vers Paris, relevant de terre les bras. À l'agonie grégaire, l'épée dressée, nous chantâme dans la joie. Oyez, martyrs de la République, nous oxyrons toute la synarchie. Les fils, les filles de cette avanie brûleront et révéleront leur fascinie. Un beau matin, marchant avec le roi, j'ai rencontré la France exempte, piteux, mais tenant à son âme. Rebelle et majestueux, sonna le glas pour les chevaux de droit. L'on vit dans toutes les régions un vent nouveau prénommé Aquilion. Purifier la terre de nos ancêtres et ressusciter le lys et le sceptre. Matin, je quitterai le roi, j'irai trouver ce qui fera de moi celui qui a jadis suranimé ma foi. Mon cœur n'aura pas d'autre loi que toi. Ces émois, les cimes et les voûtes des cathédrales, baignées dans une lueur vespérale, s'attendrissent à l'union du jeune roi. Un beau matin, l'étoile du destin éclairera les pas d'un musicien aimant le bel esprit. Plaisir d'apocalypse, il esquissera quelques divines élites. Que l'univers est bien éphémère, il m'aura suffi d'un égarement pour libérer tout ce vaste enfer et le déverser dans la ronde.
Alors, je sais ce que vont dire certains auditeurs, je sais ce que vont dire les autres. L'aspect musical, c'est tout simplement la marche des rois oui. Remise au goût du jour. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'ai lu les paroles, parce qu'elles sont sur la pochette du disque. Oui. Et c'est des paroles qui disent quelque chose,
oui,
ça c'est clair.
Un véritable message. Oui.
Ah oui, il y a un message. Un message
qui est...
Oui, c'est assez... c'est un message même... très très vigoureux, on peut dire.
Oui, c'est vrai.
Et très beau. Il faut le lire. La partie féminine est très étrange. Et ça a du sens, vraiment. C'est vous qui avez écrit ces paroles ?
C'est moi qui ai écrit les paroles. Et vous disiez tout à l'heure que ça m'était venu un jour comme ça. Enfin, c'est plutôt une nuit. Je suis un peu insomniaque, souvent. Et je regardais une chaîne que je ne nommerai pas, dont je tairai le nom. Et il passe des clips vidéo sur cette chaîne souvent la nuit, et c'est assez médiocre. Et je me suis dit, personne n'a eu l'idée de faire quelque chose de beau.
Et moi, j'aime la beauté. Je me souviens de ce que disait Dostoïevski à son sujet, et ce qu'il prédisait. Ouais. Et c'est mon credo, un petit peu. Je voulais faire quelque chose de beau, et ça n'a jamais été fait. Alors, je sais que Gainsbourg reprenait un petit peu des airs un peu classiques, mais je me suis dit, je vais essayer de faire mieux, plus simple, plus léger, plus...
Des paroles différentes.
Avec une espèce d'amusement des salons littéraires du XVIIIe siècle, où rien ne prête à conséquence, quelque part. J'aime un peu cet état d'esprit un peu baroque. Et puis, je suis assez provocateur. Et j'ai un peu l'esprit belliciste, en plus. Je suis bélier, ça tombe bien. Et tout à l'heure,
ça y est,
Alexandre Delval parlait très justement de beaucoup de choses très intéressantes. Vous parliez de, en fait, qu'on pourrait appeler le syndrome de Stockholm. Et je crois que les gens sont atteints de ce syndrome dans ce pays. Et je crois que beaucoup de ressorts sont psychologiques à la base.
Une grille de lecture plus intéressante que celle du complot, moi.
Oui. Et je crois qu'il n'y a rien qui peut faire pencher la balance de l'autre côté. Si on n'a rien, on ne peut pas choisir, on ne peut pas avoir d'horizon, de mire. C'est comme un avion, un pilote, s'il n'a pas d'horizon, s'il vole dans la brume sans l'horizon artificiel, je crois qu'il peut se retrouver sur le dos et se cracher. Et bon, l'idée, c'était faire quelque chose de beau et de...
Eh ben, voilà. C'est très réussi. On le repassera.
Avec plaisir.
Alors, ça s'appelle Disco Volante.
Ouais, c'est-à-dire que j'ai trouvé un nom de groupe, c'est Disco Volante. C'était le nom d'un bateau dans un James Bond.
Et le titre, c'est Un beau matin.
Un beau matin.
Et là, donc c'est un CD ou un disque compact. C'est un disque compact.
Oui.
L'éditeur, c'est...
Ben, c'est moi-même.
C'est vous-même. L'adresse?
On peut donner mon adresse, je peux l'envoyer par la poste, mais bon, ça va peut-être être à la FNAC dans peu de temps. Bon, sinon c'est 52 quai de Gemap, dans le 10e à Paris. Il suffit de m'écrire et puis après, bon.
Merci.
Merci beaucoup.
52 quai de Gemap à Paris, dans le
10e.
10e.
Et mon nom est Wolf.
Wolf, voilà. Facile à retenir.
Comme le loup.
Victoria, un message?
Alors, le comité du 9 mai commémore la mort de Sébastien Dizieux en 1994, ce soir même, à 9h, à 21h à Port-Royal. Si vous voulez y aller, il faut vous dépêcher. Bon, conférence Cercle Sol Invictus, vendredi 11 mai à 20h, hommage à Gustave Thibon, chrétien enraciné, par Daniel Masson. Conférence animée par Arnaud Guyot-Janin. SEIN, salle Lumière, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6e. Pierre Hillard dédicacera Minorité et Régionalisme à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e, de 15 à 19h. Voilà.
Merci. À la semaine prochaine. Merci à tous. À la semaine prochaine. Que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge Bebekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 9 mai 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 10 mai dans la nuit de 2h à 5h. Et dans la matinée de 7h30 à 10h30, ce libre journal a été réalisé par France.